Vous écoutez
RMC.
Il est 7h, belle journée à tous. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Conseil de défense ce matin à l'Elysée au sujet du Groenland, à l'heure où l'intérêt des États-Unis pour le territoire ne cesse de grandir. Des militaires français et européens sont en chemin pour un exercice militaire sur place. Il sera aussi question de l'Iran où les intentions américaines sont toujours très floues. Ce matin, Donald Trump laisse planer le doute quant à une possible intervention militaire. Et le Maroc qui tient sa finale qualifiée hier soir devant son public à la CAN, vainqueur du Nigeria au tir au but, les Lions de l'Atlas affronteront le Sénégal dimanche.
Conseil de défense, 8h ce matin à l'Elysée.
Réunion en urgence présidée par Emmanuel Macron. Deux sujets sur la table. L'Iran, nous y reviendrons dans un instant, mais aussi le Groenland convoité par les États-Unis. Il est clair que Donald Trump a le désir de conquérir le territoire autonome danois, dit la chef de la diplomatie danoise à l'issue d'une réunion hier à Washington. Le président américain évoque lui des raisons de sécurité nationale. Ses intentions doivent être prises au sérieux, dit Sébastien Lecornu, raison pour laquelle plusieurs pays européens ont annoncé hier l'envoi de troupes sur place. Parmi eux, Alfred Orange, des Français déjà en chemin pour le Groenland.
Avec l'envoi de soldats, la France d'abord assure qu'une quinzaine de militaires français, membres d'unités de montagne, aguerris au climat froid, vont se joindre à cet exercice de reconnaissance qui comptera aussi des soldats suédois, allemands et norvégiens déployés dès aujourd'hui et jusqu'à samedi pour, je cite, « soutenir le Danemark dans la garantie de sécurité dans la région ». Paris appuie ce soutien en annonçant également l'ouverture le 6 février prochain d'un consulat français au Groenland. Depuis le début, Washington fait de cette conquête polaire un enjeu de sécurité nationale. Donald Trump se dit persuadé que ce territoire autonome danois est investi par la Chine et la Russie. Des accusations que le Danemark a vigoureusement démenties.
Le chef de l'État devrait en dire un peu plus sur cette mission aujourd'hui à Istres pour ses vœux aux armées à l'issue donc de ce conseil de défense qui aura aussi pour l'objet l'Iran avec la perspective d'une intervention militaire américaine qui semble s'éloigner. Ce matin, longtemps menaçant, Donald Trump entretient le flou sur ses intentions.
Des sources très importantes nous ont informés et elles ont dit que les tueries ont pris fin et que les exécutions de manifestants qui étaient prévues n'auraient finalement pas lieu. Eh bien, nous allons observer ça. J'espère que c'est vrai. On observera ça et on verra quelle est la suite.
La répression se poursuit dans le pays. Selon une ONG, plus de 3400 manifestants ont été tués depuis le début de la contestation. L'actualité ce matin, c'est aussi l'explosion des dépenses de l'assurance maladie en termes de remboursement de médicaments, avec un coût 27 milliards d'euros en 2024, en hausse de 5% sur 5 ans. Bilan de l'assurance maladie qui évalue à 41 le nombre de boîtes remboursées par an et par Français. Mais ce n'est pas forcément la consommation qui augmente, Victor Jonin, mais le coût de traitements innovants.
Oui, il y a 10 ans, un seul médicament dépassait un coût annuel de 100 000 euros par patient, alors qu'aujourd'hui, ils sont 21 médicaments dans ce cas. Deux dépassent même le million d'euros. Alors heureusement, l'assurance maladie négocie avec les laboratoires des remises importantes, les montants sont confidentiels, mais les traitements innovants restent très onéreux. Or, ils sont vitaux pour des patients atteints de cancer, de problèmes cardiaques ou de maladies rares. Des patients de plus en plus nombreux avec le vieillissement de la population. Les plus âgés consomment 108 boîtes de médicaments par an en moyenne, et tout en haut du podium des molécules les plus prescrites, on retrouve sans surprise le paracétamol, le Doliprane, 430 millions de boîtes remboursées par an, soit 13 boîtes par seconde.
Et on parle bien d'une augmentation de 20% sur 5 ans. Autre augmentation, celle du nombre de dossiers de surendettement, près de 10% de plus l'an dernier par rapport à 2024, nous dit la Banque de France, qui a dû engager des effectifs supplémentaires afin d'en assurer le traitement. Il est 7h04, vous écoutez RMC. Émotion très vive à Mitry-Mory en Seine-et-Marne après le suicide d'une lycéenne, Camélia, 17 ans. Elle s'est donné la mort mardi après-midi en s'allongeant sur les rails du RER. Une enquête est ouverte et selon les premiers éléments, il apparaît que la jeune femme était victime de harcèlement scolaire. Amélie Courtet, une cellule de soutien psychologique a été mise en place au sein de son établissement qui a rouvert ses portes hier matin.
24 heures après le drame, les lycéens décrivent une reprise des cours pesante.
Beaucoup de personnes pleuraient dans les couloirs.
Une chaise vide, celle de Camélia, des professeurs absents.
Parce que notre prof, elle sentait pas de faire cours.
Sentiment de culpabilité, de n'avoir rien vu, de ne pas avoir fait assez face au discours dégradant qui la visait.
On parle d'une fille qui est isolée, qui a des copines juste pour l'immobilier.
image, un peu bouche-trou. Hein. Ben, on lui dit que c'est une salope, on propage des rumeurs, elle flirte avec tel mec.
Des rumeurs qui courent depuis l'année dernière, raconte Laetitia, élève de terminale dans le même lycée à Mitry-Mory, même si elle la connaissait de loin.
C'est une fille qui est très souriante, très radieuse, c'est une belle fille.
Elle s'émeut de son suicide.
C'est plutôt de la colère que de la tristesse, vraiment de la colère.
Parce que tout le monde savait qu'elle était harcelée.
C'est comme une sorte d'omerta. Tout le monde sait, mais tout le monde se tait, les gens ont peur. Puis après, quand le moment arrive, il y a un peu de l'hypocrisie, on se met à pleurer, ou une sorte d'exagération.
Mais Camélia, elle, est sortie du silence. D'après beaucoup d'élèves, elle était allée chercher de l'aide auprès de la direction, sans aucune réaction. L'établissement avait pris en compte cette situation, rectifie de son côté le procureur de Meaux.
La suite des débats budgétaires pour l'année en cours à l'Assemblée nationale, les députés qui ont rejeté hier deux motions de censure, RN et LFI, contre la signature de l'accord avec les pays du Mercosur, prévu samedi au Paraguay, c'est l'une des raisons de la colère agricole. Hier, une cinquantaine d'agriculteurs, membres de la Confédération paysanne, ont été interpellés, placés en garde à vue pour avoir occupé à Paris une annexe du ministère de l'Agriculture. Hier soir, des tracteurs se sont rassemblés dans le centre de Dijon. D'autres actions sont prévues ce matin aux portes de Dunkerque ou encore du côté de Lyon.
Et puis on connaît l'affiche de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations.
Duel entre Lyon, ceux de la Teranga, ceux de l'Atlas, le Sénégal, tombeur de l'Égypte, 1-0, affrontera le Maroc, pays hôte de la compétition, qualifié au tir au but hier soir face au Nigeria. Une troisième finale, la première depuis plus de 25 ans pour le Maroc, célébrée par la communauté marocaine en France, de Paris à Marseille. Tour d'horizon avec Antoine Guillet.
Le parc des sports de Saint-Denis exulte. Youssef El Nesseri vient de marquer le tir au but de la qualification en finale. La libération pour les plus de 200 supporters marocains présents dans la fan zone. Ils tiennent enfin une finale, qui plus est chez eux au Maroc.
Moi, c'est une joie, c'est un bonheur, c'est incroyable. C'est un moment magique.
J'avoue que je suis à deux doigts de prendre un billet pour y aller parce que j'espère qu'ils vont gagner et je pense quand même qu'il y aura du spectacle en finale.
Même scène de liesse à Marseille où les fumigènes rouges éclairent le vieux port. Les regards sont déjà tournés vers le Sénégal.
On va la gagner. 3-0 pour le Maroc. Facile.
Je vois également une chance de pénalty. Mais bon, on va vouloir gagner dans le temps réglementaire.
Rendez-vous est pris face au Sénégal, champion d'Afrique 2022. Au Maroc, comme en France, les supporters attendent désormais un deuxième titre, le premier depuis 1976.
Et cette finale Maroc-Sénégal sera à vivre sur RMC en direct dimanche soir 20h. Et puis c'est aux alentours de 9h40 ce matin que les quatre astronautes de la Station Spatiale Internationale sont attendus au large de la Californie. Retour sur Terre anticipé en raison d'un problème de santé qui affecte l'un des membres de l'équipage. Situation inédite qui pourrait avoir des conséquences sur la prochaine mission prévue en février, qui pourrait partir plus tôt que prévu, avec à son bord la Française Sophie Adenau.
Et à suivre donc, puisqu'ils sont en route pour retrouver la terre ferme. C'était le journal de Thibaut Texer, 7h08. On parle surendettement ce matin et vous êtes nombreux à témoigner. Plus 10% de dossiers de surendettement l'an dernier, Mathieu.
Oui, et la Banque de France qui recrute même des personnels pour traiter ces dossiers de surendettement, 10%, c'était à peu près le même chiffre l'année précédente. Énormément de témoignages, beaucoup de remerciements aussi des agents de la Banque de France qui ont aidé certains de nos auditeurs à sortir d'un dossier de surendettement. Je voulais vous lire, Frédéric, je suis encore dans un dossier après m'être fait pirater mon compte bancaire à hauteur de 11 000 euros, nous dit Frédéric. Depuis fin 2023, je suis dans une situation où j'ai 1290 euros de France Travail. Rien de plus, les dossiers de surendettement. Nos auditeurs témoignent aussi de la difficulté que c'est que cette épreuve, pendant plusieurs années, d'être limité, de ne pas pouvoir dépenser, évidemment.
Limité, accompagné, mais c'est aussi ce qui a permis à certains de s'en sortir dans le même temps, alors que ces dossiers explosent. Il y a aussi une augmentation des frais bancaires. Dominique, vous nous appelez au 3216 de Limoges. Bonjour Dominique.
Oui, bonjour Apolline.
Les frais bancaires, on apprend qu'ils vont augmenter de 3% en moyenne cette année. Vous faites comment, vous ?
En fait, j'ai toujours une banque classique, physique. J'ai quitté cette banque, ce que j'appelle le crédit l'abricole, pour une banque en ligne avec Boursorama.
Ouais.
Qui jusqu'alors était vraiment très bien, qui me permettait d'avoir une carte bancaire haut de gamme pour rien.
Ouais,
pour rien du tout, et avec un service très sérieusement de grande qualité, disponibilité au téléphone, etc., possibilité de changer les plafonds, aujourd'hui, le constat est complètement catastrophique, puisque j'arrive plus à les joindre au téléphone, Très compliqué pour les joindre tout court. Donc j'envisage de quitter. Le seul problème, c'est que...
De repartir vers la banque classique traditionnelle ?
Ben, je ne sais pas en fait, parce que ma banque classique, elle s'est pas arrangée depuis que je l'ai quittée. Je l'ai gardée, en fait, j'utilisais...
Oui, vous avez gardé un peu en dormant.
De la banque classique, et puis tout ce qui était consommation, paiement par carte, par la banque en ligne. Moi, je veux bien payer des frais, mais je veux payer des frais avec des vrais services, pas pour payer des frais.
En fait, ce qui est étonnant dans votre histoire, Dominique, c'est que quand vous êtes arrivé, en gros, elle vous a fait les yeux doux, quoi, si je comprends bien. C'est-à-dire qu'au début, la banque en ligne, c'était le paradis, quoi. Et puis ensuite, petit à petit, après que vous vous soyez bien installé dans le service de la banque en ligne, ils vous ont lâché.
Ah ouais, mais là, c'est une catastrophe. Mais c'est très dingue. Sérieusement, vraiment une catastrophe. Bon, par facilité, j'y suis encore parce que bon, bah voilà, j'ai pas de besoin particulier non plus. Mais très sincèrement, c'est inadmissible.
Ça veut dire que vous avez l'impression que c'est un peu, il y a les sirènes de la banque en ligne, quoi.
Oui, mais après, on pouvait aussi se poser la question comment une banque en ligne peut gagner, peut fonctionner sans percevoir aucune rémunération à ce niveau-là. Bon, en plus, moi, j'ai la chance de pas avoir de problème de défaut de paiement ou de choses comme ça. Donc, d'Agio, je connais pas. Donc, c'est pratique. Voilà.
Ça a roulé, c'est pratique. Mais à un moment, effectivement, vous vous êtes rendu compte que ça ne suivait pas. Merci pour votre témoignage, Dominique. Comme Dominique, vous n'hésitez pas. Vous nous appelez au 3216, les frais bancaires qui augmentent. Et en même temps, effectivement, ces dossiers de surendettement, plus 10% l'an dernier. On y reviendra à 7h40 avec tous nos conseils. 7h12, évitez de nouveaux drames comme le meurtre de Lola ou de Philippine, tué par des étrangers sous OQTF. C'est l'objet de votre proposition de loi. Charles Rodwell, bonjour.
Merci pour votre invitation.
Vous êtes député macroniste des Yvelines. Il faut mettre hors d'état de nuire les criminels et les délinquants étrangers. Voilà votre parti pris et vous le défendez dans un instant sur RMC. 7h12.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h15 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Il faut garder, je cite, les criminels et délinquants étrangers en rétention jusqu'à leur expulsion. Voilà votre parti pris ce matin, Charles Rodwell. Merci d'être dans ce studio.
Merci à vous.
Député macroniste des Yvelines, vous avez déposé une proposition de loi qui sera débattue début février. C'est quoi le point de départ? C'est de se dire qu'il y a le meurtre de Philippine, notamment, emblématique et terrible meurtre, étudiante à l'Université Paris-Dauphine, retrouvée dans le bois de Boulogne, tuée par un homme qui était sous OQTF, qui aurait dû quitter le territoire. Est-ce que ça, pour vous, c'est ce que vous espérez pouvoir éviter?
On ne va pas répondre à toutes les situations, évidemment, mais tout l'engagement qu'on a pris... auprès des familles comme celle de Philippine, comme celle de Lola, comme celle des victimes de l'attaque à Mulhouse, avec Michel Barnier, avec qui je dépose ce texte, avec Bruno Retailleau, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque où on a préparé ce texte, avec Gabriel Attal, avec qui je porte ce texte également au nom de mon groupe, c'est de contribuer à ce que ces situations cessent et que ces attentats, ces attaques cessent contre les familles françaises. Notamment dans deux cas. Un, des personnes qui devraient être retenues en centre de rétention avant qu'elles soient expulsées. C'est la raison pour laquelle on propose d'allonger la durée de rétention administrative pour des criminels et pour des délinquants étrangers. Je rappelle que ceux qui sont retenus aujourd'hui dans ces centres de rétention en France, ce sont déjà des gens dangereux. Il n'y a que des gens dangereux dans ces centres de rétention. Donc c'est allonger la durée de rétention. Et la deuxième des choses, c'est de contribuer à traiter un trou dans la raquette qu'il existe dans la chaîne pénale française depuis trop longtemps. C'est la question des troubles psychiatriques. On a trop entendu, à la suite de certaines attaques, que l'assaillant était atteint de troubles psychiatriques graves. Et donc on veut, par cette proposition-là, contribuer à prévenir ce type de passage à l'acte.
Alors, précisément, sur la première partie d'abord, ce que vous pointez du doigt, et en effet, la personne qui a tué Philippine avait fait de la prison, avait déjà été condamnée, aurait dû, en quelque sorte, enchaîner, à vos yeux, prison... expulsion. Pourquoi ça ne se fait pas aujourd'hui? Et pourquoi est-ce que votre proposition de loi passerait, là où les mesures qui avaient été proposées par Bruno Retailleau lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, de rallonger les durées de rétention, avaient été retoquées par le Conseil constitutionnel? Pourquoi vous, ça passerait?
Moi, je trouve qu'il est trop facile de taper sur le juge. Et que les hommes et femmes politiques doivent aussi prendre une forme de responsabilité qui est celle de bien écrire la loi. Quand le Conseil constitutionnel a censuré la première version de cette loi, il a jugé de manière assez légitime d'ailleurs, qu'une partie de cette loi était mal écrite. Ce qui me permet d'ailleurs de rendre hommage à Olivier Marleix, qui était l'un des parlementaires qui est décédé cette année, qui portait cette proposition de loi avec Michel Barnier et avec d'autres. Donc on a réécrit une partie de cette loi sur un principe simple. On est absolument convaincu que ça va passer. Pourquoi ? Parce qu'on a travaillé main dans la main avec des magistrats, avec des constitutionnalistes, avec des juges, avec le Conseil d'État qui nous a donné un avis favorable. L'objectif est simple, pour les criminels graves, pour les personnes suspectées ou avérées d'actes terroristes, on va pouvoir les retenir plus longtemps, 180 à 210 jours, avant d'assurer leur expulsion vers leur pays d'origine.
Ce qui est d'ailleurs la moyenne, par exemple, de la durée de rétention en Allemagne, par exemple, qui autorise trois fois plus de temps en espace de rétention. Mais il y a aussi cet aspect sur la psychiatrie.
Absolument.
Qu'est-ce que vous faites ? Je veux dire, il n'y a plus de place dans les hôpitaux psychiatriques en France. Donc, qu'est-ce que vous faites ?
Un exemple concret. Aujourd'hui, quelqu'un qui est atteint d'un trouble psychiatrique grave, quelqu'un qui est factuellement fou et qui menace de passer à l'acte sur les réseaux sociaux, dans la rue, s'il refuse un soin ou un examen psychiatrique, aujourd'hui, on n'est pas obligé de lui faire passer un examen psychiatrique. Dans notre loi, concrètement, quand il cumule les deux choses, un, il menace de passer à l'acte très concrètement, deux, il a l'air fou, il est atteint de troubles psychiatriques graves, le préfet peut dire, ok, celui-là, il doit passer un examen, et si c'est avéré qu'il est atteint de troubles psychiatriques, il est interné. Deuxième des choses, aujourd'hui, par exemple, pour les pédocriminels, quand il atteint le bout de sa peine, à partir de 15 ans de prison, si on se rend compte qu'il est toujours malade, donc s'il sort de prison et que, au bout de quelques jours, il repasse à l'acte, on a le droit de prononcer une peine, ce qu'on appelle une rétention de sûreté. Donc de prolonger sa peine de quelques mois, le temps qu'il repasse devant le juge ou le temps qu'il finisse de traiter son problème psychiatrique. Ça, c'est la loi qui existe pour les pédocriminels. On veut élargir la loi pour les personnes qui sont coupables d'actes terroristes ou d'actes criminels graves, afin que ces personnes puissent rester en prison le temps de finir de traiter leurs soins et de repasser devant le juge, plutôt simplement que de les relâcher, afin qu'ils repassent à l'acte
et de prendre le risque d'un passage
pour attaquer des familles françaises.
Merci Charles Rodouel, donc député Ensemble pour la République des Yvelines.
Merci à vous.
Vous avez donc déposé ce projet de loi et vous espérez qu'il soit débattu et adopté à partir de début février. Est 7h21 sur RMC. Laurent Neumann est notre historien du matin. Bonjour Laurent.
Bonjour Apolline.
Laurent, on va remonter l'histoire avec vous ce matin. Donald Trump a redit hier sa volonté de s'approprier le Groenland. Pour vous Laurent, la méthode en réalité n'est pas si surprenante.
Non, la Louisiane, la Floride, tout le nord du Mexique, l'Alaska, tous ces territoires ont été achetés par les États-Unis dans l'histoire. Trump veut juste faire pareil avec le Groenland.
Vous remontez le temps dans un instant, il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes, 7h21 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
7h22, quand l'histoire éclaire notre actualité avec vous, Laurent Neumann. Laurent, Emmanuel Macron convoque ce matin en urgence un conseil de défense. En discussion, la volonté de Donald Trump de s'emparer du Groenland, je cite, par la méthode douce ou par la méthode forte. Ça, ce sont ses mots. Ça veut dire quoi ?
La manière forte, tout le monde a compris, c'est le recours à la force armée. Sauf que le Groenland est un territoire autonome sous administration du Danemark, lui-même membre de l'OTAN. Et ce serait donc une première qu'un pays de l'OTAN attaque un autre pays de l'OTAN. Ça signifierait sans doute la mort du traité de l'Atlantique Nord. C'est donc plutôt, de mon point de vue, une menace pour inciter les Européens à accepter la méthode douce.
La méthode douce, c'est quoi ?
C'est le deal, c'est la négo pour Donald Trump, tout à un prix. Et ça, pour le coup, c'est pas nouveau. Au 19e siècle, les Américains préfèrent déjà l'expansion par l'argent plutôt que par la conquête, un chèque plutôt que la guerre. Et les États-Unis ont acheté plus de 40% de leur territoire actuel. La Louisiane, en 1803, achetée à la France pour 15 millions de dollars. La Floride, en 1819, achetée à l'Espagne. Entre 1848 et 1853, ils ont acheté tout le nord du Mexique, c'est-à-dire ce qui correspond aujourd'hui à l'Utah, la Californie, le Nevada, où il y a Las Vegas, tout le Nouveau-Mexique, et sans oublier évidemment l'Alaska en 1867, acheté à la Russie pour un peu plus de 7 millions de dollars, c'est-à-dire grosso modo 160 millions de dollars d'aujourd'hui.
Ah oui, effectivement, l'Alaska, mais pas le Groenland d'ailleurs. Pourquoi ils n'ont pas acheté le Groenland à cette époque-là ?
En fait, ils ont essayé, mais ils ont eu des problèmes, comme dirait l'autre. Les stratèges américains considéraient que s'ils avaient le contrôle de l'Alaska à l'ouest et le contrôle du Groenland à l'est, ça pouvait faire pression sur le Canada. Parce qu'ils voulaient aussi acquérir le Canada, qui était à l'époque sous protection britannique. Sauf que les Américains, ils étaient soucieux de leur image. Ils ne voulaient pas qu'on dise qu'ils colonisaient, comme pouvaient le faire les Européens. Ils préféraient dire qu'ils libéraient du territoire. Sauf qu'au moment où ils achètent l'Alaska, bah, le Canada trouve sa liberté, les Anglais leur donnent leur autonomie, bah, du coup, on peut plus acheter le Canada. Puisqu'ils sont libres, on peut plus les libérer. Donc, du coup, ça sert plus à rien d'acheter le Groenland.
Mais enfin, tout ça était un peu hypocrite, non?
Alors, hypocrite et cynique. On a oublié, mais avant d'acquérir tout ce que je vous disais là au nord du Mexique, bah, en fait, le président américain James Polk, il a provoqué une guerre contre le Mexique, une guerre totalement immorale. Mais du coup, à la fin de la guerre, bah, histoire de se racheter une conscience, les États-Unis ont dit, on va payer les Mexicains, qui évidemment n'ont pas eu d'autre choix que d'accepter, et vous aurez compris, j'ai peut-être même pas besoin de vous le dire, qu'à chaque fois que les États-Unis ont acheté un territoire, on s'est jamais demandé si les habitants étaient d'accord.
Merci Laurent d'avoir remonté le temps, effectivement, sur l'histoire des territoires américains. C'est l'heure de retrouver Arnaud Demange.
RMC. Demange Pirate, le face-à-face.
7h25, Arnaud Demange, je reçois à 8h30 tout à l'heure le politologue Gilles Kepel.
Oui, Gilles Kepel, spécialiste du bordel au Moyen-Orient, il est donc bordélologue, également titulaire d'un doctorat en merdier géostratégique en Asie du Sud-Est, voilà. Et auteur du Kama Sutra de la guerre, domination des adversaires, comment les pays se font défoncer autour du monde,
non,
aux éditions de l'Apocalypse. Et alors toujours très précis dans ses analyses, c'est à la virgule près. C'est pour ça qu'il s'appelle Gilles Kepel. Pour résumer la situation, je reçois le professeur Kepel, ZBEUL, Zbeul. C'est le Zbeul dans le monde. On reviendra sur la situation en Iran, où des millions de musulmans sont oppressés. Et alors là, curieusement, on n'entend pas les insoumis, ou quasiment pas. Quand des musulmans sont oppressés par d'autres musulmans, on les entend jamais. Faut faire revenir Mathilde Panot. Mathilde Panot, bonjour. Le régime islamique iranien oppresse sa population. C'est islamophobe de dire ça, madame. Non, ce sont des musulmans qui protestent. Ces musulmans qui protestent contre le régime islamique sont des musulmans islamophobes. Je pense même que ce sont des musulmans juifs. Ce sont des musulmans, madame. Et ça barde aussi du côté du Groenland. Là aussi, silence radio chez les insoumis. On n'a pas eu la flottille pour le Groenland. Ils n'ont pas fait ça. En même temps, il fait froid, hein. Et puis trouver un yacht pour la Méditerranée, c'est cool, mais va dénicher un brise-glace d'occasion pour se balader au milieu des icebergs. En plus, iceberg, ça sonne un peu juif comme ça. Bref, les ambassadeurs du Danemark et du Groenland étaient reçus hier à la Maison Blanche pour essayer de convaincre Donald Trump de ne pas les envahir.
Voilà.
Donc ils ont dit, Monsieur Trump, non, ne venez pas, ça sert à rien. Chez nous, la majorité sexuelle est à 75 ans, ça va pas vous intéresser. C'est faux, vous mentez, méchant Danois, oh, bad Danois, very bad Danois. Oui, bon, en tout cas, elle est à 18 ans, ça va pas vous intéresser non plus, ça. Oh, merde, j'ai horreur des vieilles. C'est courageux, hein, d'aller là-bas pour s'opposer à Donald Trump, parce qu'ils sont pas sûrs de revenir, les gars. Ils vont se retrouver dans la même cellule que Maduro. T'as pris combien? Moi, j'ai pris perpète. Qu'est-ce que tu lis? Le journal d'un prisonnier, Nicolas Sarkozy. C'est sur les conditions de détention en France, c'est terrible, j'avais pas autant pleuré depuis le journal d'Anne Frank. Et enfin, Emmanuel Macron a annoncé le début de déploiement de forces françaises au Groenland. Vous avez vu combien?
Ouais, j'ai vu, c'est horrible.
15 soldats. 15.
On y va, les gars.
Il y a aussi 15. 13 Allemands. On rigole, mais ça a fait instantanément doubler la population du Groenland. Tremble Trump. Rendez-vous avec Gilles Kepel, 8h30.
Merci Arnaud, on vous retrouve avant. Vous serez avec nous en direct à 8h20. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Et tiens, ne manquez pas notre voix de gauche ce matin. Elle réagit à la voix de droite d'hier, Louis Sarkozy, hier sur la question du halal. Vous entendrez la réponse de gauche de Cécile Duflo. Il est 7h28, à tout de suite. 7h31 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Ils n'arrivent plus à sortir la tête de l'eau. Les Français en situation de surendettement sont de plus en plus nombreux. Comme en 2024, le nombre de dossiers déposés a bondi d'environ 10%. De quoi alarmer la Banque de France. Donald Trump temporise sur l'Iran qui sera avec le Groenland au menu du Conseil de défense d'urgence convoqué ce matin par Emmanuel Macron. Et puis une vingtaine de soignants ont débrayé hier au CHU de Rennes pour dénoncer leurs conditions de travail face à l'afflux de patients.
De plus en plus de Français n'arrivent plus à joindre les deux bouts.
Au point parfois de se noyer. Pour la deuxième année consécutive, les dossiers de surendettement explosent. Une hausse de près de 10% encore l'an dernier qui a obligé la Banque de France à renforcer ses effectifs pour pouvoir tous les traiter. Car derrière ces dossiers se cachent des situations aussi difficiles qu'urgentes, Marion Gauthier.
C'est la retraite qui lui a cassé la figure, dit Pascal. En 2024, l'ancien ouvrier voit ses revenus divisés par deux. Il est atteint d'un cancer. Il n'arrive plus à payer le crédit pour sa maison.
C'est sûr que c'est angoissant. Au début, il faut voir, il y a l'aide de relance. Il y a les impôts, il y a le DEF, il y a l'eau. Plus, je paye 145 du mutuel par mois. Quand j'arrive le 15 du mois, eh ben, j'ai plus rien. Je peux plus faire de courses, plus rien. C'est pour ça que j'ai mis ma maison en vente. Moi, actuellement, je me sens, je suis sali.
Un sentiment de honte partagé par les personnes surendettées, souvent de la classe moyenne, souligne l'association Crésus.
Début octobre 2025, toutes les associations m'ont dit avoir accompagné plus de personnes que sur l'année 2024 complète.
Pauline Dujardin est la coordinatrice de la fédération.
Parce que la situation économique et politique actuelle, elle est compliquée. On a pas mal de contrats précaires qui sont restés précaires. Il n'y a pas eu beaucoup d'embauches, donc c'est ce qui peut expliquer un petit peu cette augmentation.
Elle craint que le nombre de dossiers de surendettement continue d'augmenter dans les mois à venir.
Et je vous attends au 32-16. Appelez-nous pour nous dire si, comme Pascal que vous venez d'entendre dans le sujet de Marion Gauthier, si comme Pascal vous avez été confronté à la question du surendettement. Et ne manquez pas, juste après le journal d'Élise, les conseils du président de Moneyvox.
Il est 7h34 et dans moins d'une demi-heure maintenant, Emmanuel Macron présidera un conseil de défense convoqué en urgence hier soir avec deux sujets à l'ordre du jour. Le Groenland qui fait face à l'appétit américain et où la France va envoyer des hommes pour un exercice militaire européen, et l'Iran, secoué depuis deux semaines et demie par des manifestations violemment réprimées. Deux dossiers qui ont pour dénominateur commun les États-Unis de Donald Trump. Et sur l'Iran, le président américain semble temporiser depuis hier soir, Antoine Hollard.
Écoutez, Trump a clairement changé de ton. Ces derniers jours, il était très menaçant. Il promettait d'intervenir, souvenez-vous, de façon très forte si le régime tue des manifestants. Et puis hier, il explique finalement que les tueries sont terminées et que les exécutions des opposants n'auront pas lieu. Une façon, au fond, de dire que le régime iranien n'a pas franchi de ligne rouge. Cette déclaration surprend. On a l'impression que Trump se dégonfle comme s'il cherchait un prétexte, une excuse pour ne pas intervenir et s'en justifier. Alors attention, tout cela n'est peut-être aussi qu'un coup de bluff. Le président américain a peut-être déjà pris la décision de lancer des frappes et il chercherait désormais à brouiller les pistes pour prendre les mollahs par surprise lorsqu'il passera à l'action. C'est peut-être aussi une façon de gagner du temps et de mieux préparer l'opération. On a notamment appris hier que le Pentagone a ordonné le déploiement d'un porte-avions au Moyen-Orient. Il est en route et sera sur place d'ici environ une semaine.
Antoine Hollard, correspondant d'RMC à Washington. En France, les services d'urgence sont sous très haute tension. Une trentaine d'hôpitaux ont activé le plan blanc pour faire face à l'afflux de patients causé à la fois par l'épidémie de grippe, mais aussi par la grève des médecins libéraux. Et ça ne suffit pas. À Rennes, le personnel s'est mobilisé hier pour dénoncer ses conditions de travail après le récent décès de deux patients sur des brancards. Reportage sur place de Martin Lange.
Assis devant les urgences, ils sont une vingtaine de soignants mobilisés pour dénoncer leurs conditions de travail toujours plus difficiles. Phénomène des têtes soignantes.
On n'y arrive plus, quoi. On est épuisé. Il y a des brancards partout. On double les chambres et on met plein de brancards dans les couloirs. Et reste de plus en plus longtemps. Avant, on disait ouais, 10 heures, 12 heures. Bah, maintenant, c'est 24, 48 heures. Bah oui. On veut des conditions humaines. C'est tout ce qu'on demande.
Entre la grippe et la grève des généralistes, les chiffres explosent. Près de 250 visites par jour dans un service dimensionné pour 150. Olivier, infirmier.
On a un afflux de patients qui est tellement massif que ça nous déborde, quoi. On se dit toujours qu'on a touché le fond, mais non, on arrive toujours à descendre. Donc notre cœur de métier, c'est l'humain. Et là, on fait de l'abattage. Hein. C'est compliqué d'être satisfait de rentrer le soir en se disant j'ai bien bossé, quoi.
Le week-end dernier, deux patients sont décédés dans le service dans des conditions indignes, selon Nathalie Loinsard, infirmière et déléguée CGT.
Mais un patient qui arrive aux urgences, qui est en soins palliatifs, il a droit aussi de mourir dignement dans une chambre d'hôpital, dans un lit entouré de sa famille. Et là, ça n'a pas été le cas.
Ces deux décès n'ont aucun lien avec la situation de tension, indique la direction de l'hôpital qui assure avoir pris des mesures exceptionnelles, ouverture de 40 lits supplémentaires et rappel de personnel.
7h36 sur RMC, il y avait du monde, beaucoup de monde hier à l'église de la Madeleine à Paris.
Pour la messe à Roland, en l'honneur de Roland Courbis, coach Roland qui s'est éteint lundi matin à l'âge de 72 ans. Et vous l'avez constaté, Morgane Maury, de ses amis les plus proches, à ceux qui l'ont côtoyé au cours de sa vie, tous ont voulu lui rendre un hommage appuyé.
Un ballon d'or, Zinedine Zidane, l'acteur Jamel Debbouze, des champions du monde de foot, le monde du showbiz, de la politique et du ballon rond. Roland Courbis a rassemblé tous ses milieux hier à l'église de la Madeleine pour une messe hommage. Zinedine Zidane.
Monsieur, c'est quelqu'un qui a compté pour moi et je suis là pour lui tout simplement. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est une triste nouvelle.
Devant un portrait de lui sur le banc de l'Olympique de Marseille et un maillot de son époque monégasque, ses enfants ont d'abord pris la parole, puis sa compagne. Elle a montré ce téléphone dont il ne se séparait jamais, qu'il décrochait pour faire des cadeaux. Philippe Diallo, président de la Fédération Française de Football.
C'est une des grandes figures de notre football et qui a été un des grands passionnés, des grandes figures de notre football sur ces dernières décennies.
Une cérémonie pleine de chansons pour coach Courbis, ce fan de Johnny, retient la nuit à résonner dans la Madeleine avant que Marc Lavoine ne chante la chanson préférée de Roland Courbis, cet extra de Léo Ferré.
Cet extra, un maudit blues qui chante la nuit.
Des applaudissements ont accompagné la sortie du cercueil. Samedi après-midi, une autre messe aura lieu à Marseille, sa ville natale.
Et je peux vous dire que c'était magnifique. C'était vraiment un hommage extrêmement puissant, poignant, avec effectivement tous ces témoignages de la générosité hors norme de notre cher Roland. Et toute la famille RMC était représentée, bien sûr, on y était.
Et c'est sûrement un match qu'il aurait aimé décrypter et analyser. Le Maroc a décroché hier son ticket pour la finale de sa Coupe d'Afrique des Nations en battant le Nigeria in extremis au tir au but. 22 ans après leur dernière finale, les Lions de l'Atlas font face au Sénégal dimanche à 20h. Un match à vivre sur RMC.
Le Quintet, Élise, 13h55 sur l'hippodrome de Vincennes.
Et voici notre prono du jour. Le favori, c'est le numéro 6, Tur LA. L'outsider, c'est le 13, Chestnut.
C'était le journal des Lise d'Angers, 7h38 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
De plus en plus de Français qui ne s'en sortent plus financièrement. Le nombre de surendettements, de dossiers de surendettement, a bondi de 10% l'an dernier. Ce sont les chiffres de la Banque de France. Bonjour Maxime Chipoy. Merci d'être dans ce studio avec nous ce matin. Vous êtes le président de Moneyvox. C'est ce site d'information spécialisé sur les questions d'argent. Et on va avoir besoin de beaucoup de conseils. On a de nombreux témoignages depuis ce matin de cette spirale, avec en plus une autre difficulté qui est que dans le même temps, les frais bancaires augmentent. Comment s'en sortir? Tous vos conseils dans un instant. Et vous, vos témoignages au 32-16. David sera avec nous dans un instant. David qui nous appelle du Puy-de-Dôme. Mais vous avez aussi entendu le témoignage notamment de Pascal. Je vous attends au 32-16, 7h39.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Très belle journée à tous, il est 7h43 et vous êtes bien sur RMC la radio, sur RMC Story, la télé, Canal 23. Notre pouvoir d'achat est de plus en plus sous pression. Le nombre de dossiers de surendettement a bondi de 10% en 2025 et il avait déjà explosé l'année d'avant. Bonjour Maxime Chipoy.
Bonjour.
On a besoin de vos conseils ce matin. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes le président de Moneyvox, le site d'information spécialisé sur les questions d'argent. C'est un indicateur inquiétant, ces explosions de nombre de dossiers de surendettement?
Alors ça peut être interprété de plusieurs manières. Le dépôt de dossiers de surendettement, c'est déjà une démarche positive, puisque ça veut dire qu'on se rend compte qu'on a des problèmes et qu'on est dans une démarche pour les résoudre. Le plus inquiétant, c'est vraiment de faire l'autruche et d'attendre que la situation se dégrade jusqu'au moment où vraiment on n'en peut plus, parce que là, la situation va être beaucoup plus difficile à résoudre. Donc c'est un indicateur qui fait évidemment pas plaisir, mais ça peut être la manière aussi de traiter le problème.
Ça permet de s'en sortir. Comment on tombe dans le surendettement? On a eu plusieurs témoignages depuis ce matin d'accidents de parcours, d'arnaques parfois, qui ont conduit tout d'un coup à dégringoler.
Effectivement, le cas le plus classique, c'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi avec sa carte bancaire, c'est une situation qui est fragile, quelqu'un qui a des moyens qui sont limités, qui a quand même des contraintes d'énergie, de logement, etc., et qui peut connaître un accident de la vie, un divorce, un décès dans sa famille, ou la perte de son emploi, et dans ce cas-là, le budget est complètement déstabilisé, et c'est là qu'on rentre dans cette spirale.
Dans cette spirale, David, vous l'avez connu, cette spirale, vous nous appelez du Puy-de-Dôme, bonjour.
Oui, bonjour. Oui, tout à fait. Ouais.
David, racontez-nous ce qui s'est passé pour vous.
Moi, en fait, j'étais victime d'une escroquerie. J'ai fait une vente d'un véhicule et en fait, c'était une bande organisée qui était basée sur Lyon, qui est venue récupérer le véhicule avec un faux chèque de banque et donc personne ne le savait. Il y avait vraiment tout qui était bien calé chez eux, en tout cas. Ouais. Et du coup, je me suis retrouvé avec un faux chèque de banque et j'avais plus la voiture qui avait une valeur à peu près de 50 000 euros.
Okay.
Et vu que moi, je vendais ce véhicule parce que je fermais mon entreprise à ce moment-là, je me suis retrouvé en difficulté, tout simplement.
Donc, vous vous êtes retrouvé tout d'un coup avec effectivement cet argent qui devait rentrer, qui n'est pas rentré, la voiture qui n'est plus là. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Combien de temps vous mettez avant de réaliser qu'il va falloir éventuellement avoir recours à carrément des dossiers pour être accompagné?
En fait, ce qui se passe, c'est que moi, le jour où j'ai été victime de cette escroquerie-là, en fait, cette bande organisée était sous écoute par la police judiciaire. Et donc, le jour où j'ai vendu le véhicule, ils ont intervenu, sauf qu'ils m'ont dit que l'affaire allait se résoudre parce que j'allais avoir un remboursement, etc. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. Et au bout de quelques mois, vous avez un crédit à payer. Et vu que vous avez plus de rentrée d'argent, on va dire, vous vous retrouvez à trouver un nouveau job, sauf que vous avez des prélèvements sur votre nouveau salaire. Et des prélèvements qui étaient exorbitants, donc c'était vraiment très 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 compliqué. Donc j'étais obligé à ce moment-là. Ouais,
demandé un dossier de surendettement. Est-ce que aujourd'hui, David, vous vous en êtes sorti?
En fait, je m'en suis sorti au bout de 5 ans, donc okay. Sans problème au niveau des échéances que j'avais à régler, j'ai pas eu de soucis. Et au bout de 5 ans, en fait, on a cette levée d'interdit bancaire. Donc à ce moment-là, j'ai pu continuer entre guillemets ma vie. Et voilà. Et aujourd'hui, vous voyez, il me reste encore à peu près quelques mois à payer, parce que c'est fréquent.
Mais vous voyez le bout du tunnel.
Ouais, mais j'ai payé le véhicule. En fait, je suis encore en train de payer le véhicule que je n'ai plus et j'ai aucun recours. J'ai rien du tout. Voilà.
C'est terrible. Merci pour votre témoignage, David. Quand on entend effectivement le témoignage de David, Maxime Chipoy, on voit que il y a effectivement ces arnaques, ces accidents de parcours, mais il y a aussi un surendettement qui vient de manière plus sournoise parce que tout simplement les gens ne s'en sortent pas. Comment on fait pour vivre avec un SMIC aujourd'hui?
Alors effectivement, pour beaucoup de Français, notamment ceux qui habitent en ville, vivre avec un SMIC, c'est mission impossible. C'est ce que disait le PDG de Michelin il y a quelques mois. Un SMIC, ça suffit clairement pas. Et quand on regarde, quand on fait le point dans les dossiers de surendettement, dans les commissions de surendettement, où il y a des spécialistes de ces questions-là, qu'on enlève toutes les dépenses qui sont pas forcément légitimes, la moitié des dossiers n'ont aucune capacité de remboursement. Même en mettant le budget à zéro, il y a aucune capacité de remboursement.
Concrètement, quand on est dans un dossier de surendettement, quand on est accompagné là-dessus, on a des dépenses limitées, tout est sous contrôle.
Alors effectivement, tout est sous contrôle, on vous enlève votre chéquier, vous n'avez plus droit au crédit, vos dépenses sont contrôlées par les commissions de surendettement et sur une durée qui est très longue. Monsieur parlait de 5 ans, c'est à peu près ce qui arrive. Donc c'est pas le début de la fête, c'est pas facile, mais
c'est aussi ce qui permet de s'en sortir.
C'est le seul moyen d'apurer les dettes, et puis dans ces commissions de surendettement, dans certains cas, vous avez un effacement d'une partie ou de toutes les dettes.
Le problème, c'est que dans le même temps, on le voit, les frais bancaires continue d'augmenter, il devrait augmenter de 3% cette année. Est-ce que la spirale, elle est alimentée aussi par les agios, les frais bancaires? Est-ce que les banques jouent leur rôle pour alerter ou est-ce qu'au contraire, ils mettent la tête sous l'eau?
Alors, les frais bancaires contribuent, comme toutes les hausses de dépenses, au problème, avec cet aspect particulier qui est que, dans le cas de la banque, quand on est à découvert, on paye plus cher que quand tout va bien. Donc effectivement, quand on a les commissions d'intervention, les frais de rejet de chèque, etc., ça améliore pas la situation. Alors, s'il faut être un peu positif, la situation s'est quand même améliorée puisqu'il y a eu des plafonnements un peu dans tous les sens sur ces frais bancaires-là. Donc maintenant, quand le banquier vous détecte comme étant quelqu'un de fragile, vos frais d'incidence sont extrêmement limités. C'est des moments 20 ou 30 euros par mois. Mais évidemment, c'est quelque chose qui s'ajoute à des budgets qui sont extrêmement fragiles.
Quel conseil vous pouvez donner à ceux qui nous écoutent?
Alors le premier conseil, c'est que dès qu'on sent qu'on est très limite, que notre découvert commence à traîner, il faut aller voir son banquier. Il faut vraiment pas avoir peur de son banquier et faire le point sur sa situation, parce que la pire des situations, et malheureusement c'est ce qu'on voit très souvent, c'est que les gens font un peu l'autruche et qu'ils attendent le plus longtemps possible avant de régler la situation, sauf que la situation se dégrade en attendant et c'est plus difficile à régler.
Donc n'attendez pas et réagissez. Merci Maxime Chipoy, président donc de Moneyvox, qui est ce site d'information spécialisé sur les questions d'argent. Et merci à David pour son témoignage. Il est 7h50. Cécile Duflo est rentrée dans ce studio. Bonjour Cécile.
Bonjour
Cécile,
Apolline.
Vous êtes la voix de gauche sur RMC hier. Vous avez écouté, à la même place, c'était la voix de droite, puisqu'on alterne sur RMC. C'était Louis Sarkozy qui réagissait
à certains magasins commerce KFC qui vont passer au 100% halal. Il parlait d'un signe d'islamisation. Ça vous a fait bondir?
Oui, parce que j'en ai un peu ras-le-bol des vraies fausses paniques autour de l'islam. La République n'est pas menacée par le poulet frit. Mais la diététique et la gastronomie, oui.
La voix de gauche, dans un instant, sur RMC. Il est 7h50, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de gauche, Cécile Duflo. Mais d'abord, le bonus, Mathieu, avec un musée Star Wars qui va ouvrir ses portes à Los Angeles.
Attendez, c'est bien plus qu'un musée Star Wars, Apolline. C'est le musée George Lucas des arts narratifs qui va ouvrir au mois de septembre prochain. Le créateur de la saga qui a pensé ce musée dans les moindres détails. Un parc de 11 hectares, un bâtiment futuriste gigantesque qui ressemble à un vaisseau spatial qui aurait atterri en plein Los Angeles. Le musée en lui-même sera une œuvre d'art. Toit végétalisé, cascade pour rafraîchir l'air californien, alimentation entièrement solaire. George Lucas parle d'un musée spécial. À l'intérieur, salle de ciné, boutique, restaurant, plus de 15 000 œuvres de sa collection. Peintures de Norman Rockwell, toiles de Frida Kahlo, planches de comics Marvel et bien sûr des pièces Star Wars, un modèle géant de l'étoile de la mort, des croquis inédits de Yoda et C-3PO, l'armure dorée de ce dernier même. Rendez-vous donc le 22 septembre prochain, bon, à Los Angeles.
RMC, Apolline Matin, voix de gauche, voix de droite.
7h52 sur RMC et RMC Story. Bonjour Cécile Duflo.
Bonjour Apolline.
Vous êtes la voix de gauche sur RMC et ce matin vous vouliez revenir sur ces 24 restaurants KFC qui vont passer au 100% halal mercredi prochain. Hier, la voix de droite, Louis Sarkozy, y a consacré sa chronique et vous n'êtes pas du tout d'accord avec lui, ce qui est assez logique finalement.
C'est pas seulement logique, c'est que franchement il y a un calendrier des paniques instrumentalisées liées à l'islam qui devient vraiment lourdingue. Donc en automne c'est le voile dans le sport, au printemps c'est les prières de rue, en été c'est le burkini. Et alors la viande halal, c'est un peu comme les années bissextiles, ça revient de temps en temps. Et bingo, cette fois c'est au tour de KFC qui a donc annoncé que 24 de ses fast-food sur 404. Hein. Donc Louis-Nicolas Sarkozy, joli.
Je crois qu'il s'appelle Louis, mais son père s'appelle Nicolas.
Et tous les autres pourront continuer à aller manger du mauvais poulet élevé en batterie partout ailleurs et même chez McDo.
Parce qu'effectivement, vous le rappelez, d'abord c'est pas la première fois qu'on reparle du halal dans les restaurants et puis ce sera une partie des restaurants KFC.
Alors, en fait, c'est une histoire qui date la première fois, j'ai cherché, parce que je m'en souvenais, de 2009, il y a 16 ans. 16 ans. Et c'était Quick, un patron de Toulouse, d'un restaurant de Toulouse qui voyait son restaurant se vider et à côté, un restaurant de hamburger halal qui s'était installé. Donc, il a décidé de changer son offre comme ça. Hyper bien marché. Eh bien, Quick a développé ça dans d'autres restaurants. Et à l'époque, des hauts cris, le même sketch sur la patrie en danger et menace de dépôt de plainte. Dépôt de plainte sans effet, évidemment, parce que évidemment que la discrimination est illégale en France. Ce qui serait discriminant, c'est interdire à des gens de rentrer dans des restaurants. Mais on peut faire ce qu'on veut. Ça s'appelle la liberté du commerce. Vous pouvez même ouvrir un restaurant d'escargots et d'épinards. Si vous avez des clients, allez-y.
Il n'y a pas pour vous de risque de communautarisme?
Eh bien non, parce qu'en fait, ça s'appelle même pas la diversité. Hein. C'est évidemment pas du communautarisme, c'est juste... du commerce. En fait, c'est trouver des clients
c'est l'offre
pour
et
avoir
la demande,
des commerçants. C'est l'offre et la demande. Et on a tout à fait le droit de manger ce qu'on veut. Et d'ailleurs, le pionnier Quick, qui a une stratégie marketing, n'a pas du tout une stratégie communautariste. Au contraire, et là c'est intéressant, il a une stratégie très ancrée sur la France, sur l'histoire. Il a sorti des burgers bleu, blanc, rouge au moment des Jeux Olympiques et récemment des burgers à la vache qui rit et au boursin. Et le boursin, c'est une histoire rigolote, c'est vraiment une histoire française. C'est le nom du fromager qui a créé ce fromage en 1957. Et tout le monde se souvient, dès qu'on est un tout petit peu plus âgé, du slogan publicitaire historique, du pain, du vin, du boursin.
Donc si ça, c'est pas français. La France, c'est éventuellement une viande halal avec du boursin dans un hamburger.
Un burger halal au boursin. Bah oui, c'est ça la France. Mais d'ailleurs, ce qui devrait nous mobiliser, c'est que le burger, c'est pas complètement la France. Les hauts cris à l'époque, c'était l'américanisation. Parce que le vrai sujet, c'est la qualité de l'alimentation. C'est la lutte contre les graisses industrielles, contre le trop sucré, pour le fait maison, pour les cuisiniers, parce que ça met à la fois nos artisans en danger, mais aussi la santé. Et ça, c'est un vrai c'est un vrai sujet important. Il faut absolument qu'on s'attache à la qualité de l'alimentation et que chacun mange ce qu'il veut.
Et je vous recommande d'ailleurs la lecture de notre journal confrère Le Parisien, qui ce matin titre « La France, royaume de la malbouffe ». Et effectivement, c'est aussi ce que vous dénoncez ce matin. Merci
et
beaucoup.
Là, pour le coup, la patrie serait en danger.
Merci Cécile Duflo, la voix de gauche sur RMC. 7h56, dans un instant, la météo et le journal de 8h, un conseil de défense d'urgence convoqué donc par l'Elysée. L'Iran et le Groenland sont au cœur des discussions. Que peut faire la France? Réponse dès le début du journal. La météo, beaucoup de pluie dans le nord-ouest, mais la douceur au rendez-vous. Et juste après le journal, il y aura l'économie avec vous, Emmanuel Le Chypre. 96% des petits patrons se disent épuisés, inquiets, découragés.
C'est sans doute le plus gros voyant rouge qui s'allume sur le tableau de bord de l'économie française.
Et vous nous le dites dans un instant, 7h56, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
7h59 sur RMC et il continue à faire doux, Géraldine.
Très doux, oui, mais je vous avais promis une perturbation par jour. Et ben celle d'aujourd'hui.
C'est une promesse qu'il fallait absolument tenir, Géraldine.
Ah bah désolée, je tiens mes promesses. En tout cas, attention parce que celle-là, elle est quand même assez costaud. Vigilance orange sur le Finistère jusqu'à 16h au moins pour des pluies intenses, des risques d'inondation. On attend quand même 60-70 mm de pluie sur la journée. Donc il va beaucoup pleuvoir sur le Finistère, sur l'ensemble de la Bretagne, également sur les Pays de la Loire, jusqu'aux Charentes-Maritimes, jusqu'aux côtes de la Manche. Beaucoup de pluie, beaucoup de vent aussi. À l'opposé, on a un épisode cévenol qui est en train de se mettre en place, qui va évoluer sur un épisode méditerranéen pour la fin de la semaine. On a quand même un peu de soleil entre les Pyrénées, le nord du Massif central, les Alpes et l'Alsace. Attention au risque d'avalanche qui reste important sur la Savoie. Les températures, oui, vous le disiez, c'est de la douceur. 10 degrés à Grenoble cet après-midi, 11 à Paris, 13 à Bordeaux, 14 à Lyon, 15 à Marseille, 16 en Biarritz.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story. Très belle journée à tous, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet, bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des militaires français sont en route pour le Groenland ce matin. Plusieurs pays européens déploient des soldats sur ce territoire européen qui est convoité avec insistance par les États-Unis. Les États-Unis qui temporisent quant à une éventuelle intervention militaire en Iran. Deux dossiers évoqués ce matin en Conseil de défense à l'Élysée. Et nous serons à Blois dans ce journal, au matin du procès d'un homme de 27 ans, accusé d'avoir laissé pour morte son ex-compagne qui avait tenté de porter plainte contre lui quelques heures plus tôt.
Un conseil de défense commence à l'instant à l'Élysée.
Oui, il a été convoqué en urgence dans la soirée par Emmanuel Macron pour évoquer la situation en Iran et pour parler également des velléités américaines au Groenland. Sébastien Krebs, vous êtes le chef du service politique à RMC en direct ce matin. Tout s'est accéléré en fait hier soir. Donald Trump a répété qu'il avait besoin du Groenland pour assurer, dit-il, la sécurité des États-Unis. Et la France envoie donc des soldats.
Oui, des militaires français sont même déjà en route, a confirmé hier soir Emmanuel Macron. Et d'autres suivront, écrit le chef de l'État. Alors à ce stade, on ne parle que d'une quinzaine d'hommes, selon BFM TV, des membres d'unités de montagne aguerris au grand froid, précise l'AFP. Excusez-moi. Pour ce qui est présenté comme une mission de reconnaissance qui commence dès aujourd'hui, mais surtout un exercice conjoint avec des forces danoises, mais aussi nos voisins européens. Il y aura des Allemands, des Suédois. On voit bien le message. Il est surtout politique. Il s'agit surtout d'aller planter le drapeau, de montrer que les Européens font bloc et qu'ils défendront la souveraineté danoise. Autre signal, la France va ouvrir un consulat sur place dès le début du mois de février. Si la souveraineté d'un pays européen était touchée, les conséquences en cascade seraient inédite, a prévenu Emmanuel Macron hier. Message qu'il devrait réitérer à la mi-journée. Il doit s'exprimer sur la base d'Istres pour ses vœux aux armées. Après donc ce conseil de défense qui commence en ce moment même.
Voilà, Sébastien Krebs en direct ce matin pour RMC. Il sera question aussi de l'Iran dans ce conseil de défense. Donald Trump a l'air temporisé quant à une éventuelle intervention américaine et de nouvelles images qui montrent la contestation contre le régime encore très importante. Romain Houg.
Pour le 18e jour d'affilée, des dizaines de milliers de manifestants déferlent dans les rues de nombreuses villes iraniennes, comme ici à Téhéran, la capitale. Mort au dictateur, scande une foule immense, entre autres slogans à l'encontre du régime des Mollahs. Une mobilisation historique réprimée dans le sang par les autorités du pays. Selon le dernier bilan de l'ONG Iran Human Rights, au moins 3428 manifestants ont été tués depuis le début du mouvement et plus de 10 000 ont été arrêtés. Parmi eux, Erfan Soltani, manifestant de 26 ans, arrêté la semaine dernière, devait être le premier à être exécuté par le régime. Exécution reportée. Le ministre iranien des Affaires étrangères était sur Fox News hier, chaîne que regarde Donald Trump.
Je peux vous assurer, et vraiment je suis sûr de moi, qu'aucune exécution de manifestants n'est prévu, ni aujourd'hui, ni demain, jamais.
Une information presque impossible à vérifier sur place, toute communication est verrouillée par le régime, mais Donald Trump lui répond.
Eh bien, nous allons observer ça, j'espère que c'est vrai. On observera ça et on verra quelle est la suite.
À la demande des États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir aujourd'hui pour évoquer la situation en Iran.
Et alors, effet immédiat après les propos de Donald Trump qui semble temporiser, les cours du pétrole ont dégringolé 3% cette nuit sur les marchés après avoir atteint leur plus haut niveau depuis 3 mois, un petit peu plus tôt dans la semaine. Il est 8h04 sur RMC et l'actualité nous mène à Blois ce matin où une nouvelle affaire de tentative de féminicide sera jugée aujourd'hui, demain également. C'est l'histoire de Marvin, 27 ans, et de Chloé, 22 ans. Deux jeunes qui avaient fait connaissance sur une application de rencontre à l'été 2022 avant de se séparer quelques mois plus tard. Rupture que n'acceptait pas Marvin, qui est accusé d'avoir tenté de tuer et laisser pour morte Chloé devant son domicile de Blois, alors qu'elle avait, et ce sera d'ailleurs au cœur de ce procès aux assises aujourd'hui, Constance Bostoen, alors qu'elle avait tenté de porter plainte seulement quelques heures avant le drame.
Après une énième dispute avec son ex-compagnon, Chloé pousse les portes du commissariat de Blois pour porter plainte. Mais le policier refuse. Sa mère est à ce moment-là au téléphone avec elle. Elle demande à parler au fonctionnaire comme elle le raconte quelques semaines après les faits.
Je supplie. Je lui ai dit que ma fille était en danger. Et il me dit, il y a une procédure à faire. Et si ça se passe mal, il faudra qu'elle compose le 17.
Chloé n'en aura pas le temps. Arrivée devant chez elle, la jeune femme est victime de coups de pied sur la tête, puis laissée pour morte. Après 2 mois dans le coma, elle souffre de lourdes séquelles physiques et psychologiques. Elle n'a aucun souvenir de ce qu'il s'est passé.
J'avais une colère parce qu'on ne nous a pas écoutés. Ce n'est pas une femme qui a demandé de l'aide, c'est 2 femmes.
Son agresseur risque aujourd'hui la réclusion criminelle à perpétuité. Lui, qui a toujours nié avoir eu l'intention de la tuer, explique Stéphane Rapin, son avocat.
Il a eu ce geste d'une grande violence, mais qu'il n'a pas réalisé l'étendue de la gravité de ses gestes, qu'il a pu déclarer à plusieurs reprises également.
Le policier qui avait renvoyé Chloé chez elle a été mis à la retraite d'office. Selon nos informations, il devrait venir témoigner cet après-midi devant la cour d'assises.
Deux chiffres ce matin dans l'actualité. Les Français se serrent de plus en plus la ceinture. On en a la preuve avec le nombre de dossiers de surendettement qui a augmenté de quasiment 10% l'année dernière, annonce le gouverneur de la Banque de France. C'est autant que l'année d'avant. Et ça va rien arranger, les frais bancaires vont augmenter d'environ 3% cette année, révèle ce matin l'association de consommateurs CLCV. On parle là des frais de tenue de compte ou encore pour avoir une carte bancaire, Anna Jojard.
S'il est difficile pour beaucoup de clients de savoir exactement le montant de leurs frais bancaires...
Je regarde pas. Je crois que ça doit être 12 euros.
Je dirais 10 euros par mois, mais j'en sais rien.
Beaucoup semblent résignés face à l'augmentation de ces tarifs.
Tous les ans, ça augmente, ouais, on est habitué.
C'est vrai qu'ils augmentent, et puis c'est eux qui ont le pouvoir, en fin de compte.
C'est des petites sommes, mais mises bout à bout, qui devraient arriver à quelque chose de plus important.
Une tendance à la hausse confirmée par Maya Attig, mais la directrice générale de la Fédération française bancaire l'affirme. Depuis 2017, les tarifs des banques ont augmenté 2 fois moins vite que les prix à la consommation.
Les banques ont fait un gros effort pour ne pas relever leurs prix pendant la période où l'inflation a été très forte. Et là, il y a une période, je ne sais pas combien de temps elle peut durer, pendant laquelle ces prix vont augmenter.
Une hausse qu'elle explique aussi par l'investissement des banques dans l'innovation et la technologie. Et elle invite les consommateurs à faire jouer la concurrence entre les banques pour trouver un prix adapté à leurs besoins.
Ça va rugir dimanche en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, puisque la finale opposera le Maroc au Sénégal, les Lions de l'Atlas contre les Lions de la Teranga. Ce sont les surnoms des deux équipes qui se sont qualifiées hier soir. Le Sénégal en battant l'Égypte 1-0 avec un but de Sadio Mané. Et le Maroc qui a eu besoin quand même d'aller au tir au but pour éliminer le Nigeria devant son public à Rabat, qui a explosé de joie à la fin du match. Écoutez au micro d'RMC.
On est en finale ! On est en finale ! La Coupe reste à la maison ! On est venu de Paris jusqu'ici. On a arrêté le travail. Voilà, on est qualifié. Voilà, on n'a pas eu peur. On est là. La coupe reste à la maison. On est tous contents. Les émotions, elles sont là. Le pays nous a fait plaisir. La coupe, elle est à la maison.
Voilà.
La joie des supporters marocains, c'était donc hier soir à Rabat au micro d'RMC. La finale, ce sera dimanche à 20h à vivre évidemment sur RMC, radio officielle de cette Coupe d'Afrique des Nations. On pense déjà à la Coupe du Monde qui commencera au mois de juin. Est-ce qu'elle sera la plus suivie de l'histoire? A priori, oui. La FIFA dit avoir reçu plus de 500 millions de demandes de billets. Pas découragé par les prix très élevés dans les stades américains. Et puis aujourd'hui, c'est l'Euro masculin de handball qui commence dans trois pays nordiques. La France, tenante du titre, jouera son premier match à 18h contre la République tchèque.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08 et c'est l'heure de parler économie sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel, le Chypre, c'est un gros voyant rouge qui s'allume sur le tableau de bord de l'économie française dont vous nous parlez ce matin.
Oui, parce qu'on a eu au cours des dernières semaines déjà des mauvais chiffres sur les faillites, sur les intentions des grandes entreprises, sur la faiblesse des ETI. Mais là, vraiment, le chiffre qui inquiète, c'est celui qui ressort de l'enquête annuelle du syndicat des indépendants et des très petites entreprises, publiée hier. 96% de ces patrons de TPE se disent épuisés, inquiets ou découragés. Il n'y en a que 7% qui ont réussi à augmenter un peu leur marge en 2025. Et on rappelle que plus de 8 entreprises sur 10 en France sont ces très petites entreprises, à savoir des entreprises de moins de 10 salariés.
Donc ça représente la très vaste majorité des patrons. C'est un ras-le-bol qui va bien au-delà des aléas, juste de la conjoncture.
Et oui, c'est ça qui est inquiétant. Ce n'est pas seulement le trou d'air sur les carnets de commandes. C'est que, en fait, ce que constatent beaucoup de petits patrons, c'est que leur chiffre d'affaires ne suffit plus à couvrir des coûts structurellement en hausse, l'énergie. Ça suffit plus non plus à absorber une paperasserie toujours plus envahissante et complexe qui va encore s'alourdir avec la facturation électronique, ce qui finalement les contraint à ne plus se payer. On a quand même plus d'un petit patron sur deux qui se paye moins que le SMIC aujourd'hui. Et donc, dans ces conditions, c'est simple, ils en ont ras-le-bol. Deux petits patrons sur 10 envisagent une cessation d'activité, là, dans les 6 prochains mois avant l'été. Et quand on dit cessation d'activité, c'est pas qu'ils font faillite, c'est qu'ils en ont marre, ils tirent le rideau, ils vont faire autre chose.
Donc c'est une cessation d'activité volontaire.
Exactement.
Quelles conséquences pour le tissu économique de toute la France, pour l'emploi?
Les TPE, elles sont dans tous les secteurs d'activité, mais particulièrement dans le bâtiment, l'artisanat, le commerce, l'hôtellerie. Elles sont au cœur de l'économie de proximité. Elles sont particulièrement présentes dans la ruralité, les petites communes. En fait, les TPE, c'est les seules entreprises dont vous connaissez le nom du patron. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. C'est 20% de l'emploi, sauf que c'est bien plus en création d'emplois. C'est-à-dire que c'est la catégorie d'entreprise qui crée de loin le plus d'emplois aujourd'hui en France. Or, aujourd'hui, vous en avez plus de 8 sur 10 qui vous disent « bah non, on créera pas d'emplois en 2026 ». Donc, c'est une situation de fragilité que tous les élus qui vont discuter des budgets 2026 et 2027 etc., doivent bien avoir en tête avant de décider sur qui ils vont taper pour essayer de réduire les déficits publics.
Arrêtez de jouer avec nos impôts, c'est ce que disait hier le gouverneur de la Banque de France qui était mon invité à 8h30. Merci Emmanuel, 8h10.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, Arnaud Demanche nous rejoint sur RMC à 8h30. L'invité du face-à-face, ce sera le politologue Gilles Kepel. Alors que la nuit a encore été extrêmement complexe, on ne sait toujours pas quelles sont les intentions des États-Unis vis-à-vis de l'Iran et vis-à-vis du Groenland. La France qui a convoqué en urgence un conseil de sécurité qui a commencé à 8h ce matin. Rendez-vous donc à 8h30 pour tout comprendre avec Gilles Kepel. Juste après le face-à-face, on retrouvera comme chaque matin Nicolas Canteloup et ses imitations. Rendez-vous à 8h50 sur RMC. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Et bonjour.
Bonjour Arnaud. 8h15, c'est l'heure d'accueillir Arnaud de manche.
Apolline, Pascal, Géraldine, Mathieu. J'ai ouï dire que vous aviez des enfants.
Oh non.
Oui, une sortie qu'on aime bien faire en famille, c'est le salon de l'agriculture. Mais alors cette année, méfiez-vous, les organisateurs ont annoncé il n'y aura pas de vaches. Il n'y a pas de meux, il n'y aura pas de vaches. En raison de l'épidémie de dermatose nodulaire, ça va être triste. Un salon de l'agriculture sans vaches.
Sans vaches, c'est chaud quoi.
C'est comme un salon du chignon sans Mathieu Béliard. C'est comme un salon de l'étudiant sans Jean-Marc Morandini. Mais j'ai une bonne nouvelle les enfants, il y aura quand même des bovins. Car plein de politiques parcourront les allées du salon, des vieux sénateurs, des députés dépressifs.
Maman, c'est quoi cet animal tout mou sans aucune colonne vertébrale?
C'est un député Les Républicains, maman. N'y touche pas, il est peut-être contagieux. Alors Emmanuel Macron n'ira pas au salon de l'agriculture, je pense, parce que le salon, c'est sympa s'il y a des vaches.
Mais si c'est juste pour voir des agriculteurs pas contents et des tracteurs, c'est bon, j'en ai assez vu pour cette année. J'ai juste à ouvrir une fenêtre.
Par contre, Jordan Bardella, lui, devrait y être. Ce sera encore la star. Hein. Monsieur Bardella, qu'allez-vous faire pour l'agriculture ? Alors, l'agriculture est très importante pour faire pousser des légumes et des fruits pour les exportations. Oui, d'accord. Et les éleveurs ? Alors, les éleveurs, grand 2, petit A, les éleveurs. Chaque éleveur doit avoir un professeur dans chaque classe. Vous confondez avec les élèves. Ah, merde, les élèves. Chapitre 15. Merde, vous direz rien aux électeurs. C'était filmé, monsieur Bardella. Ah, bon, alors attendez. Je vais manger du saucisson et du pâté en disant vive la France. Vive la France ! Et voilà, plus 3 points. Ils n'ont rien vu.
L'ancien ministre de l'économie, Bruno Le Maire, vient d'être embauché par le cabinet de conseil américain Macro Advising Partners.
Exactement. Oui, c'est un cabinet à New York, c'est pour ça l'accent. Il conseille les multinationales sur les enjeux économiques. Prendre Bruno Le Maire, 3000 milliards de dettes pour des conseils économiques, c'est vraiment prendre Jonathan Daval comme conseiller conjugal. Si ça se trouve, c'est un agent infiltré de la France qui a pour mission de détruire l'économie américaine et de sauver le monde de Trump. On va prendre un missile dans la gueule. Qu'est-ce que vous m'avez envoyé comme saloperie ? On avait dit... pas l'arme nucléaire et pas Bruno Le Maire. Very bad Bruno, bad economy, very bad, oh, bad renflement brun, bad renflement brun. Après, son rôle peut être très positif à Bruno Le Maire. Imaginez le cabinet. Bruno, nous avons besoin de votre expertise. Que feriez-vous pour cette société ?
Eh bien, moi, je vendrais mes actifs.
Achetez tout ! L'oracle a parlé ! L'oracle inversé a parlé ! C'est comme ça qu'on gagne des milliards !
En France, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer le retour du 49-3 pour faire passer le budget. Sébastien Lecornu s'y refuse. Il prend donc le risque que les députés renversent le gouvernement.
Oui, et Emmanuel Macron menace d'une dissolution si le gouvernement est renversé. Donc il y a plein de députés, ça les arrange pas de perdre leur job. Donc ils demandent le 49-3 pour pas être virés et pas repartir en campagne sur les marchés. Parce qu'en plus, il y a marché et marché. Hein. Nous, on se dit, c'est sympa de faire campagne au marché, parce qu'on imagine les petits marchés de province sous le soleil de juillet. Bonjour, escarte figue. Tiens, une tranche de bonne saucisson du père Fougas. Quelle est belle notre province. Elle sent bon le panifou. Bonjour, monsieur le député, bon courage pour votre campagne. Pistou, offre un bouquet de lavande à monsieur le député. De la lavande de Provence, du cerf-follet, des petits lapins. Oh, fan de chichourle, la bagasse mondiale, bonne mère. Mais quand tu dois aller sous la pluie au marché à Arras en février et te faire engueuler par un poissonnier parce qu'il y a trop d'arabes,
il y a des mosquées partout. C'est de votre faute, hein. Je vais te mettre un coup de camion, salopard. Gamin, Donovan, va gifler ce connard avec un camion au milieu
de quatre pauvres stands. Alors, il y a le poissonnier, il y a le type qui vend des chaussettes par boîte de 5.
Oui.
Il y a le rhum qui vend des Playmobil de contrefaçon et la vieille qui te refourgue des pulls moches de chez Chine en fibre de plastique. Donc les députés, ils disent pitié, pas encore. Utilisez le 49-3. Et le cornu, il dit bah non, si j'utilise le 49-3, ça veut dire que je vous demande pas votre avis. Mais on s'en fout, il est nul à chier, notre avis, de toute façon. Faut pas vous fatiguer avec ça. On est naze. On peut vous le dire qu'on est naze, on est bien placé pour le savoir. C'est nous les députés, quand même. Eh bien voilà, écoutons la représentation nationale. Elle sait mieux que nous. Courage les députés et bonne journée tout le monde.
Courage les députés, donc. Merci Arnaud Demange. Je vous retrouve tous les matins en direct, 7h20, 8h20. Vous êtes nombreux au 32-16 à réagir à cette question de surendettement. On vous le disait, plus 10% de dossiers de surendettement l'an dernier. Et c'était pareil l'année d'avant, ça fait 2 ans que ça explose. Bonjour Carmel. Carmel, vous nous appelez des Vosges, vous êtes à La Marche.
Oui, c'est ça.
Carmel, racontez-nous, vous vous êtes vous-même retrouvé dans une situation de surendettement ?
Oui, malheureusement, suite à des mauvais choix et un accident de la vie qui a fait que j'étais plus en capacité de pouvoir rembourser ce prêt-là. Ça a été la descente aux enfers.
Ça se manifeste comment ? C'était quand ? Comment vous avez fait pour appeler l'aide ?
Il y a un peu plus de 7 ans.
Ok.
il y a un peu plus de 7 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû reconnaître et accepter ce qui a été le plus dur, de me dire que voilà, j'ai besoin d'aide.
Ouais. Demander de l'aide, oser se dire, en fait, j'ai besoin d'aide. C'est ce que nous disait tout à l'heure le spécialiste de ces questions-là, il disait, n'attendez pas.
C'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, par le biais d'une assistante sociale, j'ai eu recours à la Banque de France, en fait, pour un dossier de surendettement.
Ok.
Moi, la différence, c'est que moi, ça a été un gel des créanciers pendant un peu plus de 2 ans.
Pour qu'ils vous donnent le temps de ressortir la tête de l'eau ?
Exactement. Mmh. Mais encore, faut-il avoir la possibilité de retrouver dans cette situation-là un travail stable, un loyer modéré. Mmh. Exactement. Et puis, moi, j'avais une vie de famille, donc faut pouvoir compenser tout ça. Et moi, ce qui m'a manqué, je dirais, c'est que on n'a pas pris en compte toute ma situation. Mmh. On se base sur des, si vous voulez, quand vous faites le dossier de surendettement, on se base sur l'instant T. On fige la situation, mais on ne sait pas ce qu'il en est au bout de 2-3 mois. Mmh. Moi, il s'avère qu'à ce moment-là, j'ai perdu mon emploi.
Ouais.
Et du coup, malheureusement, ce qui avait été calculé pour geler ces créanciers ne suffisait plus. Donc, au bout de 2 ans, je me retrouve harcelé des créanciers.
Est-ce que vous en êtes sorti, Carmel, aujourd'hui?
Eh ben, en fait, ça a été, je dirais, il y a eu un contexte, parce que moi, ça revenait sur ce que vous disiez tout à l'heure aussi avec les banques. Moi, j'ai dû avoir recours à une néobanque, en fait, une banque chez un buraliste, qui m'a permis d'avoir des frais fixes, de pas avoir de découvert, et du coup, j'ai essayé de relever la tête, sortir la tête de l'eau. Mais ce que je regrette, en fait, c'est qu'il n'y a pas de suivi au-delà de ces 2-3 années pour nous dire comment ça se passe, est-ce qu'il y a une évolution.
Pour continuer à vérifier en temps réel, en quelque sorte, en fonction de votre situation, comment faire. Carmel, merci beaucoup de votre témoignage et l'importance, comme vous le dites, de reconnaître et donc d'appeler à l'aide. Et ensuite, ne laissez pas tomber ceux qui ont fait cette demande et à contaminer-les sur le long terme. Merci beaucoup, Carmel, de nous avoir appelé au 32-16. Il est 8h22 sur RMC et BFM TV. On vient de parler de votre pouvoir d'achat. Et là, on va parler de la question des menaces, les menaces de pire en pire, et cette nuit encore beaucoup d'incertitudes. Incertitude des États-Unis, vont-ils intervenir en Iran? Incertitude vis-à-vis du Groenland, et la France qui a réagi puisqu'elle a convoqué hier soir tard un conseil de défense en urgence. Il a commencé il y a 22 minutes maintenant à l'Elysée autour d'Emmanuel Macron. Comprendre cette situation et les menaces qui nous guettent avec Gilles Kepel. Il est mon invité tout de suite sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h28 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Gilles Kepel.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à mon invitation ce matin. Vous êtes professeur émérite des universités, spécialiste du Moyen-Orient. Votre dernier livre, ça s'appelle Antiterrorisme, et c'est aux éditions Plomb. On a besoin de vos lumières ce matin pour essayer de comprendre ce qu'il se joue, et notamment ce qu'il s'est joué dans les toutes dernières heures et ce qu'il se jouera peut-être même aujourd'hui. L'Iran, les menaces, position américaine et l'ensemble de la région, avec en toile de fond également des menaces pour l'OTAN avec le Groenland. Sur ce qu'il s'est joué dans les toutes dernières heures, au point qu'Emmanuel Macron a décidé en urgence de convoquer un conseil de défense qui se tient en ce moment même à l'Élysée, qui a commencé à 8 heures. Des déclarations parfois contradictoires de Donald Trump sur l'Iran. Au moment où l'on se parle, Gilles Kepel, il ne semble plus que les prochaines heures puissent voir des frappes américaines.
En effet, oui, l'un des signes clairs, c'est que le trafic aérien commercial a repris sur l'Iran. Et donc, les compagnies n'auraient pas envoyé des avions s'il y avait des frappes.
À l'instant, Turkish Airlines annonce reprendre ses vols en direction de Téhéran.
Voilà, et un certain nombre d'autres. Donc, on ne pense pas qu'il y aurait une frappe américaine dans l'immédiat. Ça, hier, il y a eu une grande tension parce que Donald Trump a fait savoir que s'il y avait des pendaisons prévues, puisqu'on annonçait la pendaison d'un jeune homme aujourd'hui, qui avait été arrêté dans une ville proche de Téhéran à la suite d'une manifestation, il agirait. Du côté des Mollahs, le ministre des Affaires étrangères, Araghchi, a annoncé qu'il y a cette pendaison n'aurait pas lieu, était retardée, je ne sais pas. Et donc, ça a donné à Donald Trump le prétexte, si vous voulez, pour reculer. puisque de toute façon, il est très difficile, même s'il voulait frapper, de le faire. Il a déporté l'essentiel de ses forces militaires sur l'hémisphère ouest, comme il l'appelle. Il s'est occupé du Venezuela. Donc, on est en train, aujourd'hui, les Américains sont en train de faire revenir un porte-avions vers le Golfe Persique. Il en a pour une semaine avant de revenir.
Il est en route?
Semble-t-il, oui.
Donc, dans une semaine, il aura techniquement, oui, si je puis dire, une base à partir de laquelle il pourrait frapper. Il y a la question aussi de l'Arabie Saoudite, du Qatar, qui ont expressément refusé que les Américains ne survolent leur pays. Ça veut dire quoi, ça? Est-ce que, d'abord, est-ce qu'au moment où on se parle, Donald Trump est en train, en quelque sorte, de lâcher les Iraniens après les avoir quasi encouragés à sortir dans la rue?
Alors, d'une part, du point de vue de Donald Trump, il a, si j'ose dire, plusieurs fers au feu, puisque tout le monde est aujourd'hui très préoccupé en Europe par les menaces croissantes sur la souveraineté danoise et européenne sur le Groenland. Donc, les dirigeants danois était à Washington pour en parler avec le vice-président Vance récemment. L'armée française a envoyé un détachement qui est arrivé au Groenland ce matin. Ça peut sembler surréaliste, cette histoire, d'un côté le Groenland et l'Iran, mais c'est le monde de Donald Trump d'une certaine manière. Et je ne pense pas que ça veuille dire qu'il est renoncé. Ça veut dire que il met les moyens pour exercer une forte pression sur la République islamique. Il faut bien voir que même si il n'y a pas d'opposition unie qui permettrait de faire tomber le régime, c'est-à-dire par rapport, on compare beaucoup ce qui se passe avec la chute du Shah en 79, c'est-à-dire à l'envers d'une certaine manière. À l'époque, vous aviez les mollahs qui sont dans le monde chiite, une hiérarchie cléricale structurée qui obéit à des ordres
d'en haut.
Oui, un ou des chefs. Enfin, Khomeini avait été le grand chef, c'est le guide suprême, et qui pouvait, ce qu'on appelait en persan, Vahdet el-Kalime, c'est-à-dire l'unité des mots d'ordre. Et donc, qui organisait le soulèvement très précisément, qui faisait désobéir aussi un certain nombre de dirigeants des forces de répression du Shah. Il n'y a rien d'équivalent
aujourd'hui. C'est un soulèvement populaire.
Voilà, qui n'a pas l'air. Enfin, il y a des gens de l'extérieur qui, comme le fils du Shah notamment, qui s'en réclament, qui l'animent éventuellement, mais il n'y a rien sur le terrain qui indique une capacité de mobilisation continue, durable, et aussi il n'y a pas pour l'instant de signe de défection à l'intérieur du régime. C'est-à-dire le phénomène Maduro. On pense maintenant que Delcy Rodriguez, quand même, était prévenue à l'avance de ce que Maduro allait partir et qu'elle allait le remplacer.
Exactement. Du renversement de Nicolas Maduro, côté Venezuela. Gilles Kepel, les massacres qui ont eu lieu ces derniers jours de manifestants, est-ce que Donald Trump dit, selon mes informations, ces massacres vont cesser? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que l'on peut espérer que ces massacres cessent? Et est-ce que, malgré le coup de froid à nouveau de Donald Trump sur une éventuelle intervention, le régime s'écroulera ou est-ce qu'il peut tenir?
Alors, pour l'instant, il ne tient que par une répression monstrueuse. Et on a vu les tirs à balles réelles, etc. Les témoignages les plus poignants sont ceux d'Iraniens qui ont réussi à partir et qui sont revenus, puisque, comme vous l'avez vu, il y a eu le blocage de l'Internet. Le pouvoir iranien a même réussi à empêcher le Starlink d'Elon Musk de fournir des informations, et les seules informations sont des gens qui ont réussi à revenir et qui ont fait des réussites.
Et Elon Musk qui avait tenté effectivement donc de redonner via Starlink,
oui, comme il a fait pour l'Ukraine,
Internet, ouais. Mais le gouvernement iranien menace de mort qui que ce soit qui l'utiliserait.
Oui, il y a ça, et puis il y a aussi un autre phénomène qui est plus préoccupant, on voit monter, c'est la fabrication d'images de manifestations par l'intelligence artificielle. Et apparemment, ça a été beaucoup utilisé par le régime des Mollahs quand ils ont annoncé leur contre-manifestation de soutien au régime, etc. Il semble que le fast-checking, comme on dit, n'ait pas été fait avec beaucoup de scrupules par un certain nombre de médias qui ont produit du coup des images de manifestations enthousiastes.
Ce que vous êtes en train de dire, Gilles Kepel, c'est que les quelques images que l'on avait de soi-disant manifestations de soutien précisément au régime islamique pourrait être des faux.
Oui, c'est en fait ce que un certain nombre de sites d'analyse sont en train aujourd'hui de démontrer.
Ce régime peut-il tenir ?
Alors, c'est justement la question. À mon avis, il ne tient que par la répression aujourd'hui. Et ça, il ne peut pas durer, même sur le moyen terme là-dessus, puisque si vous regardez la situation intérieure, elle est absolument catastrophique. C'est venu effectivement d'un effondrement de la monnaie, c'est venu du bazar, le début de la révolte, c'est-à-dire il n'est plus possible de faire de l'argent en Iran, y compris cette classe moyenne religieuse qui s'était enrichie grâce au Mollah, et c'était le bazar qui avait déclenché le début de la révolution contre le Shah en 1979. Donc tout ça, ces fondamentaux n'ont absolument pas bougé. L'Iran a des réserves de gaz et de pétrole gigantesques. Il y a des pénuries d'essence en Iran, puisque l'essence subventionnée est revendue à la frontière pakistanaise, etc. Il n'y a plus d'eau à Téhéran. Le président iranien, Monsieur Pezeshkian, avait presque même annoncé cet été qu'on allait demander aux habitants de Téhéran de quitter la ville, parce que peur d'être assoiffés. Donc tout ça semble aujourd'hui en très mauvaise position. Aujourd'hui, ils tiennent par la répression et surtout, ils n'ont plus leur système de dissuasion extérieure. Qu'est-ce qui protégeait la République islamique ? C'était en grande partie la machine à attaquer Israël, basée essentiellement sur le Hezbollah, avec le corridor terrestre à travers l'Irak et la Syrie, qui permettait de livrer des missiles très lourds au sud du Liban, qui pouvait attaquer Israël, détruire une petite ville israélienne par exemple, ce qui était à titre préventif une garantie que ni Israël ni les États-Unis n'allaient attaquer le territoire de la République islamique. Tout ça n'existe plus aujourd'hui.
Depuis ce qu'on appelait la guerre des 12 jours.
Voilà, et même avant, en fait c'est le paradoxe, c'est le 7 octobre, quand Yahya Sinwar lance l'attaque du 7 octobre, oui, du Hamas, la razzia pogromiste du 7 octobre. Il pense qu'il va infliger à Israël un coup terrible. Effectivement, en termes d'image, Israël a beaucoup souffert, tout ça. Ensuite, après la répression, la guerre d'anéantissement à Gaza, tout ce que chacun l'appelle comme il veut. Après, chacun des mots qu'on prononce là-dessus, on reçoit des tombereaux d'insultes d'un côté et de l'autre, mais on continue un pas vide. Le paradoxe, c'est que cette guerre, lancée par le Hamas et par Sinwar, finalement, a abouti à un affaiblissement considérable de l'Iran, puisqu'elle a permis la destruction de tout son système de dissuasion, vous voyez.
Donc, le Hezbollah. Voilà. Ses alliés Hezbollah, évidemment.
Il n'y a plus de régime, ce régime syrien d'Assad qui n'est
plus. Ses défenses aériennes.
Voilà, ses défenses aériennes. Hamas contrôle plus ou moins le territoire de Gaza, mais n'a plus de capacité de projection. Donc, si vous voulez, l'Iran est tout ce qui faisait sa puissance.
Son allié vénézuélien, voilà, comme vous le disiez également. Gilles Kepel, certains souhaitaient une intervention et souhaitent toujours une intervention de Donald Trump. C'est le cas notamment de la lauréate iranienne du prix Nobel de la paix en 2003, qui demande à ce que les États-Unis mènent des actions hautement ciblées. L'Arabie Saoudite, le Qatar, à l'inverse, demande aux États-Unis de ne pas intervenir. Quelles seraient les conséquences d'une intervention d'un côté, qui, si je vous entends bien, peut-être n'aura pas lieu, certes, dans les prochaines heures, mais Donald Trump n'y a pas pour autant totalement renoncé. Non. Quelles seraient les conséquences aussi sur l'équilibre global ?
Et on peut regarder ce qui s'est passé lors de la guerre des 12 jours dont vous parliez, c'est-à-dire que la hantise des Américains, s'ils étaient allés plus loin que 12 jours, c'était la décomposition de l'Iran à la manière dont l'Irak de Saddam Hussein s'est décomposé quand le dictateur est tombé, c'est-à-dire Daesh est sorti de tout ça, ça a créé du terrorisme dans toute la région. Et là, on voit de très fortes inquiétudes, par exemple des Saoudiens, des Qataris, des Émiratis. Imaginez que des gens incontrôlés s'emparent des dépôts d'armes des Pasdaran, de leur flottille dans le Golfe Persique, attaquent les pétroliers. Vous avez remarqué que le baril de pétrole a monté de 10 dollars.
Parce qu'en quelque sorte, ils se disent rassurés en quelques heures après effectivement la déclaration qui semble laisser entendre effectivement qu'il n'y aura pas de frappe dans les prochaines heures. Immédiatement, le cours du baril de pétrole a remonté. Si les États-Unis n'interviennent pas militairement, y a-t-il un autre chemin pour que le régime islamique d'Iran s'écroule ? D'autres doivent-ils ou peuvent-ils intervenir ? La France, par exemple. Israël demande à la France de soutenir la reconnaissance des gardiens de la Révolution comme organisation terroriste. Est-ce que ça pourrait avoir la moindre conséquence ? Le Conseil de sécurité de l'ONU a été convoqué tout à l'heure, en particulier sur cette question de l'Iran. Est-ce qu'il y a d'autres voies pour intervenir et faire tomber le régime.
Conseil de sécurité, tant que vous avez la Chine et la Russie qui ont un droit de veto, je pense pas qu'il faut en attendre grand-chose. La Chine est assez préoccupée par ce qui se passe en Iran, parce que elle tire. La Chine n'a pas de pétrole, contrairement à la Russie. Pour la Russie, le pétrole iranien, la Russie est exportatrice d'hydrocarbures. La Chine est une grosse consommatrice et importatrice, parce que c'est ce qui la croissance chinoise veut se faire que ça, qu'à travers ça, et elle bénéficie de pétrole iranien et vénézuélien, justement, qui, à travers différents trafics de transbordement au large des Philippines ou autres, tout ça est aujourd'hui très fortement perturbé pour les Chinois. Ça, c'est indéniablement. Mais pour ce qui est d'une intervention américaine, elle est envisageable, si vous voulez. Elle est possible, mais elle peut advenir que si d'abord les bases, les possibilités militaires de le faire sont réunies. Or, actuellement, il ne semble pas que les États-Unis aient les moyens de frapper, de mobiliser les choses, puisqu'ils ont trois, ils sont trois fers au feu. Mais le Venezuela, le Groenland et l'Iran.
J'allais revenir aussi au Groenland, parce que je veux aussi vous entendre sur le fait que finalement l'un n'est pas sans lien avec l'autre, alors que effectivement géographiquement on imagine que tout cela est très différent. Mais Gilles Kepel, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait malgré tout un porte-avions qui avait repris le chemin effectivement pour pouvoir s'approcher à nouveau de l'Iran. Est-ce que ce que vous êtes en train de nous dire au fond, c'est que les États-Unis n'interviendront pas en violant ce que demande l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire en passant au-dessus du ciel de l'Arabie Saoudite ou du Qatar, mais qu'une fois que leur porte-avions se sera rapproché, est-ce qu'ils auront à ce moment-là la possibilité, l'option stratégique, d'intervenir sans avoir à passer par l'espace aérien?
L'option sera sur la table, et puis les Saoudiens et les Qataris peuvent aussi se faire tordre le bras par les États-Unis dans ces cas.
Ça s'est déjà vu.
Donc, je crois que c'est surtout l'inquiétude du chaos qui se répandrait dans toute la région. Et c'est ça qui inquiète beaucoup. Vous avez vu que d'ores et déjà, dans la péninsule arabique, les choses étaient assez tendues. Au Yémen, il y a eu une conflagration entre l'Arabie Saoudite et les Émirats. Israël et les Émirats ont favorisé la création d'un État indépendant, le Somaliland, qui est détaché de la Somalie et qui est destiné, en gros, à surveiller le détroit de Bab el-Mandeb, c'est-à-dire le détroit qui ferme la mer Rouge, par lequel passent tous les bateaux qui vont ensuite depuis l'Asie, depuis la Chine, à travers le canal de Suez en Europe. Donc, on a énormément, si vous voulez, de recompositions, de manœuvres qui traduisent l'évolution des rapports de force mondiaux qui se produisent en ce moment dans le Golfe. Et l'Iran est une des pièces de cet échiquier.
Quand on dézoome, Gilles Kepel, à la fois dans le temps, en regardant dans les mois qui viennent, mais également effectivement quand on a un regard comme le vôtre sur l'ensemble de la région, est-ce que vous diriez, au fond, que depuis le 7 octobre, puisque vous disiez que ça a été quand même un moment décisif finalement,
et paradoxal.
Paradoxalement, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, c'est l'affaiblissement de ce régime islamique?
Oui, globalement, il est très affaibli par rapport à sa situation avant le 7 octobre. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas, probablement, continuer éternellement ainsi. On pense bien qu'à l'intérieur même de ce régime, il y a des gens qui, pour garder le maximum possible, vont vouloir envisager des compromis. Mais ils ne peuvent pas le faire dans une situation de contrainte, puisque là, ils n'en pourraient plus contrôler rien. Et on peut envisager effectivement qu'à l'intérieur, ça bouge. La question étant celle du guide suprême, Ali Khamenei, 86 ans, qui n'a pas envie d'avoir le destin de Bachar el-Assad, ni de Maduro.
Gilles Kepel, dans le même temps, il y a en effet cette concomitance avec la menace sur le Groenland. Mm-hmm. Est-ce que pour vous, le fait justement de jouer sur ces deux tableaux en même temps, c'est calculé de la part de Donald Trump?
Alors, le Groenland, c'est aussi un enjeu très idéologique. Vous avez vu que c'est en fait, il a chargé le vice-président Vance, qui est un beaucoup plus virulent généralement dans son propos, de traiter l'affaire du Groenland. C'est lui qui a reçu le ministre des Affaires étrangères danois qui s'est rendu à Washington. Et j'ai l'impression que cette priorité est subrogée, si vous voulez, à celle de l'Iran, étant entendu qu'on considère que les Européens ne vont pas faire grand-chose. Alors on a envoyé des contingents militaires, la perspective étant, est-ce que des troupes américaines de l'OTAN pourrait tirer sur des soldats de l'OTAN européen. Ça créerait une situation de crise complètement inédite, mais la disruption du système international telle qu'elle est pensée par Trump n'a été jamais vue. Thomas Gomard, le patron de l'IFRI, vient de publier un livre dans lequel il le compare à une sorte de parrain, d'une certaine manière, au sens de la mafia sicilienne, du système international. Et on voit bien que toutes les catégories de pensée que nous avions pour réfléchir sur le système international sont aujourd'hui mises à l'épreuve par cette présidence disruptive et aussi ce bouleversement du monde, si j'ose me citer, qui a été mis en œuvre par le 7 octobre.
Merci beaucoup Gilles Kepel. Bouleversement du monde, c'était le titre d'un de vos précédents livres. Votre dernier, il s'appelle Antiterrorisme et vous l'avez écrit avec Jean-François Ricard sur la traque des djihadistes alors que vous vous exprimiez à l'instant. L'Iran, comme vous le disiez d'ailleurs, a très officiellement démenti que l'homme qui a été arrêté samedi pendant ce qu'ils disent être des émeutes puisse être exécuté. C'est le pouvoir judiciaire iranien qui, en tout cas, au minimum, tente de gagner du temps. Merci beaucoup, Gilles Kepel, d'avoir répondu à nos questions. Il est 8h47 et vous êtes bien sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50. Face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Gilles Kepel, mon invité ce matin, est resté avec nous. Rebonjour Gilles Kepel.
Rebonjour.
Et Donald Trump souhaitait d'ailleurs réagir à cette interview. Monsieur le Président, bonjour.
C'est votre président préféré qui vous parle. Oui, je voulais dire au spécialiste de la géopolitique, Gilles Kepel, il peut s'avancer dans son travail et dire dans son prochain livre que l'Iran, avec son pétrole, ce sera bientôt le 55e État américain. Oui, après le 51e, le Venezuela, le 52e, le Groenland, le 53e, Cuba, et puis aussi l'autre île là-bas, l'île de France. Oui, parce que c'est chez nous, Paris. Disney, c'est chez nous.
Ah, Disney.
Mickey, je le connais bien. Sa femme aussi, Minnie, je l'ai connue chez Epstein.
Non. Merci, monsieur le président Donald Trump. Gilles Kepel, vous êtes un expert donc du Moyen-Orient. Merci d'être resté avec nous pour nous éclairer sur la situation très complexe en Iran.
Oui, bien écoutez, c'est tout à fait normal. Je suis là pour expliquer le Moyen-Orient à tous les cons qui ne comprennent rien et aux autres qui s'en branlent. Écoutez, la situation est assez limpide. Vous avez la ligne dure de l'ayatollah Ali Khamenei, 86 ans, bousculé, qui pourrait rejoindre Bachar el-Assad à Moscou et ainsi éviter que le Hezbollah, qui servait à attaquer Israël, et les proxys yéménites, bien sûr, de l'Iran chiite, et même chiites, d'ailleurs, sunnites, d'ailleurs, vous avez raison, de manière financée par les Saoudiens, Qataris, des Émirats, soient susceptibles d'affaiblir le Hamas, qui a déjà fort à faire, vous le savez, au Groenland, par le biais du canal de Suez que Maduro souhaite obtenir par le biais de la Cisjordanie et des gardiens de la révolution de la Chine septentrionale dont la Russie est proche, ce qu'on oublie d'ailleurs souvent,
oui,
de préciser. Mais moi, vous savez, je suis un expert et je fais du fast-checking, surtout à l'aéroport. Mais bien entendu, il faut resituer cela, cher Apolline de Malherbe, dans un contexte géopolitique, oui, plus global, avec bien sûr, du vous recul. Le savez, les dernières décisions du Vanuatu islamique et des îles Fidji, Salafo, à la Huit. Je peux développer si vous le souhaitez.
Non, c'est bon, on a bien compris. C'était limpide, merci Gilles Kepel. C'est fou, en quelques minutes, vous avez réussi à nous rendre le monde plus simple. Alors justement, on va rester sur l'internet.
Le tour du monde en 80 secondes.
Ouais. On va rester sur l'international avec Donald Trump, son appétit expansionniste. Eric Ciotti souhaitait nous alerter. Monsieur Ciotti, bonjour.
Oui, moi je convoite Nice.
Ah.
et Nice, il faut le dire, est en danger. Ah. C'est une terre rare, il faut le dire, gorgée, Monsieur Kepel le sait, de sous-sols et de métaux précieux.
Des métaux précieux dans les sous-sols niçois ?
Mais oui, dans les cimetières niçois.
Ah.
Hein, on en trouve à foison, des dents en or, des enchants titanes, des rotules en cobalt. Oh, ça peut attirer la convoitise de Trump. Voilà. Et vous le lirez dans le prochain livre de Gilles Kepel. Nice est une cible.
D'autant hein. plus que je suis originaire de Nice, que j'ai grandi dans la circonscription dont Ciocchi est le député.
Ah, oh, ben vous ne pensiez pas si bien dire.
C'est une très bonne imitation de Kepel.
Gilles Kepel imite très bien Gilles Kepel.
Il est parfait. Alors, où en étais-je? Oui, donc le scénario où oui, c'est une cible, Nice. Oui. Il a raison. Mais ou alors, il y a un autre scénario possible parce que Trump peut faire aussi enlever le chef de l'État niçois, le tyran Christian Estrosi, hein, en hélicoptère. Je l'imagine en claquette chaussette et il met en place un homme de confiance. Et là, je ne vois que moi. Non, finalement, il est bien ce Trump.
Merci Eric Ciotti. La crise agricole se poursuit. Il y en a un qui n'a pas été beaucoup entendu, tiens, c'est Jean-Luc Mélenchon.
Pas été trop entendu, Jean-Luc Mélenchon. Et là, vous ne m'entendez pas, là ?
Si, là, c'est bon, là, je vous entends, monsieur Mélenchon.
Oui, je parle moins fort aujourd'hui parce que j'essaye de me mettre en mode gentil, parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'une élection présidentielle approche, donc il faut changer d'image, paraît-il, voilà.
Ah.
La crise agricole, je vais vous en parler. La cause, c'est pas la dermatose ou le Mercosur, non. La cause, quelle est-elle? C'est la politique de Macron, évidemment. 4 premiers ministres en 2 ans. Il y a une forme d'instabilité. Et l'instabilité, évidemment, ça forge la révolte des paysans. Hein. Est-ce que M. Kemel le sait? Est-ce qu'on a déjà vu des paysans se révolter en Russie? Non. Hein. En Corée du Nord, non. À Cuba, non. Voilà. Hein, parce que là-bas, c'est stable. Voilà. Donc, vous avez compris pour qui il faut voter. Parce que la stabilité, c'est moi.
Vous aviez promis de vous calmer, monsieur. Merci en tout cas. Les municipales ont lieu dans moins de 2 mois. Mmh. Et un jeune candidat au Puy-en-Velay, Baptiste Vauquier, 22 ans.
Oui. Oui, tout à fait. Et j'ai lu son programme.
Ah oui.
Il est formidable.
Ah oui.
Je cite, pour que les volcans d'Auvergne restent en Auvergne et qu'il y ait moins d'Arabes dessus.
Ah oui,
c'est brillant, c'est limpide, on dirait du Kepel.
Oui, bah, Laurent Vauquier, je vous reconnais. Baptiste Vauquier, bah, c'est votre fils.
Ah bon? Ah bah écoutez, non mais franchement je l'ignorais. Vous savez, moi je passe la plupart de mon temps à Paris. Le Puy-en-Velay, j'y fous jamais les pieds. Donc je ne connais pas tous les locaux.
Ah oui, enfin arrêtez.
Mais je me disais bien que son nom me disait quelque chose.
Ok, c'est mort. Il est candidat donc sur la liste de Michel Chapuis, qui était déjà l'homme de paille que vous aviez mis à votre place à la mairie quand vous étiez devenu président de région.
Non mais peu importe, ce Baptiste Vauquier est un petit génie, c'est ça qu'il faut retenir. Vous rendez compte? Seulement 22 ans. Il est encore plus précoce que votre Louis Sarkozy. Hein. Mmh. Il pourrait être chroniqueur chez vous, vous exposeriez encore plus au niveau audience. Peut-être que vous-même, vous dépasseriez France Inter avec le Baptiste Vauquier.
Bon, enfin, c'est quand même un peu nul, ces fils d'eux qui reprennent la boutique de leur père. Franchement, ça pose une question de légitimité quand même, monsieur Vauquier.
Mais non, mais légitime. Mais ouvrez les yeux, Mme de Malherbe. Ouvrez les yeux, ils sont jeunes. Ils sont jeunes, ils savent faire des TikTok comme personne, oui. Les jeunes. C'est ça la politique aujourd'hui, Madame de Malherbe. Mm. C'est sur TikTok que les municipales vont se jouer. Mm. Vous avez vu Mamdani à New York, hein? Mamdani à New York, c'est que grâce aux réseaux qu'il a été élu. Hein? Mm. Et moi, mon fils, je le connais. Je le connais très bien. Il passe sa journée à rien foutre sur un canapé sur les réseaux. Hein? Donc je vous le dis, c'est un super candidat.
Ah bah c'est QFD. Merci Laurent Vauquier. On va continuer sur les municipales. Levallois-Perret, Patrick Balkany, bonjour. Oui. Vous souteniez Jérôme Goliard, mais je cite, vous avez dit, j'ai découvert ses casseroles. Il a des dettes partout, je ne peux plus le soutenir.
Donc écoutez-moi bien, jamais, vous m'entendez, Madame de Malherbe, Monsieur Kepel, Monsieur Marchand, jamais je ne soutiendrai un homme malhonnête.
Oui, c'est très beau. Cette attitude
très responsable, attendez, avant de me féliciter, j'ai pas fini ma phrase. Jamais je ne soutiendrai un homme malhonnête qui a des dettes.
Ah.
Hein? Oui, mais pardon, mais quand on magouille, c'est pour qu'il y ait au moins un enrichissement personnel. Hein? Si c'est pour avoir des dettes, c'est que vous êtes un nulard. Je vais pas soutenir un gars comme ça, pardon, mais dans le milieu, moi j'ai une réputation à tenir.
Je comprends bien, monsieur Balkany, merci beaucoup. Et merci Nicolas Cantlou, quand vous retrouvez demain à 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Merci aussi à Gilles Kepel d'être resté avec nous. Dans un instant, les GG. Alain Marchal, quel est le programme?
Eh bien, figurez-vous que on sait que les GG ont du succès. Les GG ont du succès aussi sur les réseaux sociaux. Et figurez-vous que 2 de nos vidéos ont été retweetées et relayées par Javier Milei, le président argentin. Il a trouvé ses champions. Charles Consigny et Barbara Lefebvre, relayés par Javier Milei. Ben, on va en parler dans les GG.